Vous êtes sur RTL.
Bonne journée à toute l'équipe de nos petits matins. Nous vous proposons d'ailleurs ce matin une matinale spéciale sur RTL. Elle a pour titre « Comment peut-on augmenter les salaires ?» Invités, reportages, débats, chroniques. Nous serons au cœur de vos préoccupations après l'avoir été sur le coup de la vie. Dès 7h15, Anaïs Bouissou pour sa brigade. 2 250 000 Français sont au SMIC, 13% des salariés pour un salaire net de 1258 euros par mois. Comment augmenter les salaires minimums ? Et que se passe-t-il chez nos voisins ? Sachez que 6 pays européens, dont l'Italie et la Suède, n'ont pas de salaire plancher. À 7h35, François Langlais nous rappellera que nos salaires sont bas, mais compensés par beaucoup d'aides de l'État. Et nous prendrons le pouls de la situation avec nos invités, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, et l'invité d'Alba Ventura à 7h40 et à 8h20. Débat entre Sophie Binet, co-secrétaire générale de la CGT des cadres, et Benoît Serre, qui est lui vice-président de l'Association nationale des DRH. Comment augmenter vos salaires au cœur de cette matinale? Il fait frais et c'est donc avec plaisir que je vous annonce que Cyril Lignac nous donnera sa recette de saucisse au chou juste avant 9h. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. Très bonne journée à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien justement, là, une à propos de ces Français qui ne gagnent pas assez pour vivre, un portrait édifiant ce matin sur RTL.
Oh oui, la journée sans fin d'Émilie, 37 ans à Lyon. Nounou la journée et livreuse Uber Eats le soir à vélo jusqu'à minuit. L'actualité sanitaire à nouveau à la une ce matin. Comment contrer la cinquième vague? La France durcit les règles à la frontière avec la Belgique, notamment pour les non-vaccinés. Ces non-vaccinés, justement, qui sont désormais confinés en Autriche, la décision est inédite en Europe. Dans ce journal, un miracle du côté du Mans. Un conducteur âgé fait 85 km à contresens sur autoroute. Heureusement, sans faire de blessés. Et puis les Baudins de retour au cinéma. Les aventures du duo comique en Thaïlande. Les avant-premières cartonnent, vous l'entendrez.
La politique, Olivier Bost.
Face à Éric Zemmour, chacun cherche sa réplique et semble enfin la trouver.
On vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Quand travailler ne suffit pas pour vivre correctement, alors que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français, matinale spéciale jusqu'à 9h, RTL vous emmène au cœur de la vie de ces salariés qui ne gagnent pas assez pour boucler les fins de mois. Frédéric Perruche a rencontré Émilie, 37 ans. Elle cumule donc deux emplois, nounou la journée, livreuse à vélo le soir jusqu'à minuit. Reportage.
C'est la musique depuis tout à l'heure, tu montres.
À 37 ans, Émilie, maman de trois enfants, débute une journée sans fin. Le matin.
C'est ça, c'est le premier travail. Je suis assistante maternelle et du coup, je garde des enfants la journée. Donc en fait, de 8h à 17h45, j'ai des enfants des autres.
Un travail qu'elle adore mais qui ne suffit pas. Alors cette maman courage enchaîne dans la foulée une soirée de livraison.
Je pars en vélo pour faire ma deuxième journée de travail via Uber Eats en livraison. Il est 19h, j'enchaîne pour les repas et je pense que je vais arrêter autour de minuit.
Deux fois 35 heures ?
C'est ça, je fais deux fois. Deux fois ce que quelqu'un de normal fait. Les conditions actuelles font qu'un salaire ne suffit pas. J'ai pas le choix et c'est pour mes enfants que je me bats surtout.
Pour les enfants, pour qu'ils puissent mieux vivre.
Sinon j'aurais pas pu emmener mes enfants en vacances, j'aurais plus eu de loisirs, j'aurais vraiment travaillé que pour payer les factures, les notes. On n'aurait plus eu aucun loisir. Et moi mon but c'était vraiment quand même de pouvoir me permettre de leur payer une semaine de vacances par an, voilà. Demain, il y a un imprévu, la voiture à réparer, quoi que ce soit. Sans ça, je ne peux pas.
Et les semaines interminables d'Émilie rapportent à la petite famille quelques 2000 euros net par mois, en plus du salaire modeste du papa.
Merci beaucoup Frédéric Perruche. Et c'est donc une matinale spéciale salaire sur RTL ce matin. À 7h15, la brigade RTL d'Anaïs Bouissou, qui sont ces 2 millions de salariés, un peu plus, qui gagnent le SMIC en France. Vous verrez notamment que les employés au salaire minimum restent parfois des années sans aucune augmentation au fil de leur carrière.
Alors comment augmenter les salaires? Quelles sont les solutions? Question centrale ce matin sur RTL. On en parlera notamment avec le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, invité d'Alba Ventura à 7h40.
L'actualité sanitaire et la vie qui change à nouveau à cause du Covid. Le taux d'incidence est à nouveau record en Belgique. 600 cas pour 100 000 habitants, 6 fois plus qu'en France. Désormais, les Belges non vaccinés devront donc fournir un test de moins de 24 heures pour passer chez nous. Reportage à Tournai en Belgique d'Antoine Decarne.
Avec ces nouvelles restrictions, Karine, habitante de Tournai, n'a plus aucun doute sur l'issue de son séjour dans les Alpes prévu en décembre.
Non, ce sera pas possible. Donc tout le monde sera obligé de rester un peu chez soi.
Elle et d'autres membres de sa famille disposent d'un schéma vaccinal incomplet et le test négatif de moins de 24 heures ainsi que les contrôles ne l'enchantent pas.
C'est juste pour obliger les gens à se faire vacciner même s'ils n'ont pas envie.
Mais avec en moyenne 8000 nouvelles infections par jour, la Belgique retrouve un rythme de propagation du virus qui n'avait plus été atteint depuis un an. Malgré tout, Eric est inquiet de ces mesures. mesure.
C'est contraignant. Les Belges viennent en France. Si on n'est pas armé de tous nos papiers qui prouvent qu'on est vacciné contre ci, contre ça et tout, on ne peut pas rentrer. Les gens vont plus vouloir y aller.
Et à l'ombre du clocher tournaisien, Florian, lui, a décidé d'éviter ce problème en se faisant vacciner.
Dernière dose hier. Je pense que c'est un peu n'importe quoi et que du coup, il y a moins de gens qui iront en France. Quoi. Mais c'est ça qui m'a fait vacciner. En plus, ils annoncent plus de contrôles. Il n'y a pas le choix.
Toutefois, lors de ces contrôles, des exceptions seront faites pour les professionnels du transport routier, pour les habitants frontaliers dans un rayon de 30 km et pour les déplacements terrestres de moins de 24 heures.
Merci Antoine Decarne en Belgique pour RTL. Cette nouvelle règle s'applique pour 15 autres pays d'Europe centrale et de l'Est, notamment l'Allemagne et l'Autriche. L'Autriche qui se réveille ce matin comme un pays à deux vitesses. Premier pays européen à reconfiner, mais uniquement les habitants non vaccinés. Décision justifiée pour Piotr qui est interne à l'hôpital de Vienne.
En réalité, c'est une décision plus juste que de confiner tout le monde. Nous avons tellement de cas ici, et dans les hôpitaux de la Haute-Autriche et de Salzbourg, c'est encore pire. Le but, c'est de motiver les gens à se faire vacciner. Certains ne veulent pas parce qu'ils s'en fichent de la santé des autres. Eh bien, désormais, ceux-là, ils devront se faire vacciner pour garder leur liberté. C'est une décision très juste que seuls les non-vaccinés doivent assumer un confinement. Et puis, ce sera bien mieux pour notre économie. Bien mieux que de confiner tout le monde.
Propos de ce médecin à Vienne, recueilli par l'envoyé spécial d'RTL en Autriche, Valentin Boisset, que l'on retrouve en direct tout à l'heure dans le journal de 8 heures. En France, la cinquième vague monte également. Le taux d'incidence a augmenté de près de 40% en une semaine. Ce sont les 30-39 ans qui sont actuellement les plus touchés. Mais pour le moment, la hausse reste modérée à l'hôpital. À noter que le masque redevient obligatoire à partir de ce matin pour les élèves dans toutes les écoles élémentaires de France.
François Fillon, lui, est de retour au tribunal.
Début aujourd'hui du procès en appel de ce qu'on a appelé le Penelope Gate, cette affaire de soupçon d'emploi fictif. Le tribunal avait estimé que l'épouse de l'ancien Premier ministre avait touché 1 million d'euros sans apporter la preuve de son travail. François Fillon a été condamné en première instance à 5 ans de prison, dont 2 en ferme. Il va à nouveau contester l'accusation. Le procès doit durer 15 jours.
Une pause et dans un instant, ce miracle. À côté du Mans, un octogénaire a fait 85 km sur l'autoroute, 85, sans faire de blessés. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. RTL Matin.
7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Un octogénaire a donc fait 85 km à contresens sur l'autoroute, tranquillement. C'était dans la nuit de vendredi à samedi.
Oui, exactement, entre Le Mans et la Ferté-Bernard sur l'autoroute A11. Terrifiante méprise qui, heureusement, n'a fait aucun blessé, Vincent Serrano.
Oui, c'est d'abord la famille de cet octogénaire qui prévient les gendarmes en fin de journée des proches, inquiets, puisque l'homme de 83 ans a pris sa voiture et quitté son domicile sans dire où il allait. Et il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Pendant plusieurs heures, il est introuvable et pour cause, il est entré à 1h du matin à contresens sur l'autoroute A11 dans le département de l'Eure-et-Loire. Un véhicule signalé à 4 reprises par des automobilistes. Et c'est là que les gendarmes font le rapprochement. C'est l'homme qu'ils recherchent. Ils mettent alors en place un dispositif particulier pour l'intercepter. Et c'est finalement à 1h50 que les motards arrivent à l'arrêter à l'échangeur de la Ferté-Bernard. Dans le département voisin de la Sarthe, les gendarmes comprennent donc à ce moment-là que l'octogénaire qui habite à côté du Mans a roulé à contresens sur l'autoroute pendant 85 km. Par miracle, sans faire de blessés, désorienté, l'octogénaire a ensuite été pris en charge par sa famille, venue le récupérer avec l'accord de la gendarmerie.
Merci Vincent Serrano. Airbus signe un contrat énorme au salon aéronautique de Dubaï. La production de 255 avions A321 pour 4 compagnies américaines, chiliennes, hongroises et mexicaines. Près de 30 milliards d'euros pour la valeur de cette commande. Airbus qui confirme l'ascendant prix sur son rival américain Boeing. Et puis Fortnite n'est plus accessible en Chine. Selon les adeptes de ce jeu vidéo, l'un des plus populaires du monde avec 350 millions d'utilisateurs, l'entreprise Epic Games qui le commercialise conteste les règles de plus en plus drastiques qu'impose Pékin sur les contenus qu'il juge violents ou obscènes.
RTL 7h10, l'attitude de Moscou en Ukraine inquiète à nouveau Paris et Washington.
Oui, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian et son homologue américain Anthony Blinken évoquent l'inquiétante activité militaire russe après le déploiement de troupes à la la frontière ukrainienne. La France a déjà mis en garde Moscou contre toute nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale de ce pays.
Le sport est d'abord la défaite cuisante, un défi du PSG hier soir à Lyon.
Défaite 6-1, le contexte a pesé, on le rappelle, une des joueuses agressées il y a 10 jours après une soirée. L'une de ses coéquipières soupçonnée, placée en garde à vue avant d'être relâchée sans aucune poursuite. Lyon qui, avec cette victoire, prend 3 points d'avance sur son principal rival en tête du championnat. Et puis chez les hommes, dans la course au Mondial au Qatar l'année prochaine, l'Espagne a décroché son ticket en battant la Suède 1-0. En revanche, le Portugal devra passer par les barrages s'il veut offrir à Ronaldo une 5e participation à un Mondial. Les Portugais battus 2-1 par les Serbes qui du coup sont qualifiés. Et puis en mode Formule 1, c'est Lewis Hamilton sur Mercedes qui l'a emporté hier soir au Grand Prix de Sao Paulo devant Max Verstappen sur Red Bull. Le Britannique qui revient à 14 points du Néerlandais à 3 courses de la fin du championnat.
Et on termine avec du sourire, le retour au cinéma d'un des duos comiques les plus populaires de France.
Oui, le film Les Baudins en Thaïlande sort ce mercredi en salle. Les aventures donc de cette mère octogénaire, autoritaire et de son fils un peu nigo. Oui. Après avoir attiré plus d'un million de spectateurs en salle pour leurs différents spectacles, on constate leur incroyable popularité lors des avant-premières qu'ils enchaînent, comme à Nancy par exemple, au Kinépolis, reportage de Dimitri Ramelot.
Salle numéro 3, pleine à craquer, 310 sièges occupés de très jeunes aux grands-parents.
Bon, écoutez, Madame Baudin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser.
Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan ?
Et les sketchs et répliques s'enchaînent à un rythme effréné.
Si par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule.
Et après 1h40 de fou rire, des spectateurs ravis de leur après-midi.
Excellent, on s'est marré tout le long, c'était bien comme il faut. La répartie, les gags entre les acteurs.
Oh, moi j'ai adoré, plus que réussi.
Immense satisfaction pour les Baudins, Jean-Christian Fraissinet et Vincent Dubois, de voir une telle adhésion du public.
Je pense que ça leur a manqué parce qu'ils nous le disent. Ils nous disent il était temps que vous reveniez parce qu'on n'avait plus le moral. Donc nous on est contents, en fait on est des aides-soignants nous aussi. Hein.
Faites marcher le bouche à orteil mes enfants.
Et pour faire face à la demande de ses fans, le duo se rendra dans des cinémas pour présenter le film jusqu'au 21 novembre, 4 jours après la sortie en salle.
Reportage de Dimitri Ramelot, et pour se rendre compte de leur popularité, rendez-vous compte, le spectacle des Baudins, ce qui avait été diffusé sur M6, avait fait un véritable carton il y a 2 ans, près de 5 millions de téléspectateurs à ce moment-là.
Et ils ont rempli tous les zéniths de France. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Bordeaux, le Bousca.
Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 3, le 4, le 15, le 8, le 5 et le 2. La dernière minute étant le 8, enivrante.
Et ce journal de 7 heures nous a été proposé par Olivier Bois. 7h13, la politique avec vous Olivier Bost. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce que vous relevez ce matin Olivier, c'est que le ton est en train de changer en fait avec Éric Zemmour. Les politiques lui répondent plus ouvertement.
Oui, après sa présence devant le Bataclan samedi soir, ceux qui rechignaient même à prononcer son nom ou évoquer ses propos ont changé. L'instrumentalisation sans vergogne par Éric Zemmour des victimes du 13 novembre a fait réagir François Hollande. Nommément visé, il a dénoncé sur Radio J des propos infondés, indécents, indignes. La semaine dernière, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dénoncé sur France 5 la confusion totale sur l'histoire du polémiste. Édouard Philippe, ce week-end sur RTL, a aussi dénoncé son révisionnisme sur Vichy, sur De Gaulle. Le temps de l'indifférence ou du mépris est fini. Éric Zemmour est enfin traité pour ce qu'il est devenu, un homme politique qui déroule des idées et qui fait campagne pour conquérir le pouvoir.
Pourquoi cette prise de conscience a-t-elle pris autant de temps ?
Eh bien par naïveté, par sidération, par prudence ou même par cynisme. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon s'est montré naïf quand il a pensé que débattre avec Éric Zemmour pourrait remobiliser son propre camp. Les Républicains, eux, sont comme paralysés. À chaque débat pour leur congrès, ils tentent de rattraper le sévère constat de Gérard Larcher. Le phénomène Zemmour symbolise nos renoncements sur l'immigration et sur la sécurité, avait dit le président du Sénat.
Alors, vous parliez aussi de sidération face à Éric Zemmour.
Oui, Marine Le Pen a vu sa stratégie de campagne toute tournée vers le second tour s'écrouler en 2 semaines. Déstabilisée, elle n'a cessé publiquement d'hésiter entre l'indifférence des vieilles troupes, comme elle dit, et revoir ses messages.
Et la majorité dans tout ça ?
Même Emmanuel Macron n'a pas de ligne certaine face à Éric Zemmour. Tout tout peut laisser penser que ce n'est pas son affaire, ou plutôt que ça pourrait faire ses affaires politiquement. Il est le miroir inversé de tout ce que l'on propose, explique un responsable de la majorité. Sauf que les thèmes et l'ambiance que cela donne au débat public ont fini aussi par atteindre l'Élysée. Emmanuel Macron a répliqué par petite phrase sibylline d'abord, jusqu'à répondre la semaine dernière à 20h aux doutes, à la colère et au retour du nationalisme.
Donc chacun cherche sa réplique.
Oui, parce que personne n'a encore vraiment résolu cette question toute simple en apparence. Est-ce que répliquer à Éric Zemmour participe à son ascension et diffuse ses idées, ou est-ce l'absence de toute objection qui lui permet tranquillement de creuser son sillon? Il y a aussi le sentiment, assez répandu encore, qu'aller sur le terrain moral, le diaboliser, ne servirait à rien. Tout cela était vrai jusqu'à la semaine dernière. Éric Zemmour est un politique, un nationaliste xénophobe, et désormais traité comme tel.
Merci beaucoup Olivier Bost. Comment peut-on augmenter les salaires? C'est le thème de notre matinale spéciale ce matin sur RTL et à 7h40. Je vous le rappelle, tout à l'heure, Alba Ventura reçoit Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Nos chefs d'entreprise peuvent-ils vraiment augmenter les salaires? La question lui sera posée.
Yves Calvi, RTL Matin.
Nous poursuivons notre matinale spéciale sur RTL et avec notre brigade, nous nous intéressons ce matin au salaire minimum. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Le SMIC vient d'être revalorisé début octobre, 1258 euros net par mois. Dites-nous qui sont les Français au SMIC et d'abord sont-ils nombreux?
Oui, 2 250 000 salariés sont payés au SMIC d'après les dernières statistiques de la DARES au ministère du Travail. Ça fait quand même 13% des salariés en France. Ce sont plus souvent des femmes, dans 6 cas sur 10, et souvent aussi des temps partiels. À mi-temps, un salarié au SMIC va toucher moins de 630 euros net par mois.
Anaïs, le pire c'est que certains secteurs d'activité en France rémunèrent au SMIC une bonne partie de la carrière, avec en fait peu de progression de salaire.
Oui, dans l'hôtellerie-restauration, dans les salons de coiffure, chez les transporteurs routiers, dans les magasins de bricolage, en tout, une quarantaine de secteurs d'activité sont à la traîne des salaires, avec parfois aucune renégociation de tarifs depuis 2012. Ça veut dire que les salariés restent écrasés, bloqués au SMIC pendant plusieurs années, même quand ils acquièrent de l'expérience.
Et si on regarde ailleurs, au-delà de la France, est-ce que notre salaire minimum est si bas?
Non, il est vrai que notre SMIC reste dans le top 6 des SMIC européens les plus hauts, derrière les salariés du Luxembourg qui gagnent 570 euros de plus net par mois que chez nous, mais c'est pour 40 heures par semaine. SMIC plus élevé également en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande. A l'inverse, les salariés de l'Europe de l'Est ont des SMIC parfois divisés par 2 ou par 3 par rapport à chez nous. Mais il est difficile d'en tirer une comparaison sérieuse car le niveau général des salaires y est également moins élevé. Reste 6 pays européens qui n'ont toujours pas de salaire plancher, l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Suède.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Dans un instant, RTL Événement, nous allons prendre des nouvelles de la reine Elisabeth II. Elle devait apparaître hier pour la cérémonie du souvenir, mais sa participation a été annulée à la dernière minute. Nous serons avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour comprendre ce qui se passe réellement à Buckingham Palace. Précisons néanmoins que la reine en ce moment est au château de Windsor.
RTL Événement.
Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. La reine Elisabeth II devait apparaître hier lors de la cérémonie dite du souvenir pour saluer les Britanniques en milieu de matinée. Et finalement, 2 heures avant l'heure dite, un communiqué annonce que finalement, la reine sera absente de cette cérémonie. Et cette absence est de nature à raviver les craintes et les inquiétudes du moment sur l'état de santé de la reine. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, quelles sont les toutes dernières nouvelles dont vous disposez?
Alors les toutes dernières nouvelles sont tout de même rassurantes. Boris Johnson, le Premier ministre, hier au conseil du dimanche à Downing Street, a dit à son équipe que la reine allait bien. Mais c'est vrai qu'on a une succession d'annulations qui montre bien que la reine fatigue. C'est une dame de 95 ans. Il faut bien voir que ses concitoyens sont à la retraite depuis 30 ans, normalement, à son âge. Et puis, elle a vécu des moments extrêmement difficiles ces derniers mois qui l'ont particulièrement affaiblie.
Alors, il faut dire que les dernières images que nous avons d'elle, elle avançait avec une canne et ça ne semblait pas du tout de nature rassurante. En tout cas, ça ne correspond pas à l'image qu'on a d'elle.
Non, pas du tout. Elle a été tellement combative. Il faut voir, elle a perdu son mari quand même il y a 6 mois. On l'a vu réapparaître en public de manière extrêmement intense dès un mois après la disparition de son époux. Rien qu'à la rentrée, elle a fait en 3 semaines 3000 kilomètres pour être vraiment présente absolument partout. Donc c'est sûr aussi qu'elle a une volonté hors norme, mais que oui. Je pense elle en a trop fait.
Alors je voyais, enfin moi ça m'a paru être le plus significatif, une information comme quoi elle ne promenait plus ses chiens.
Alors, elle ne promène plus ses chiens en ce moment, c'est vrai. En revanche, on l'a vu au volant de sa voiture, on l'a vu quand même sortir, mais c'est sûr que pour la première fois depuis très longtemps, ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans un hôpital. Elle a passé le 20 octobre dernier la nuit à l'hôpital pour des investigations préliminaires. Oui. Elle a tout annulé depuis 3 semaines. Elle devait être présente à la COP26 qui était extrêmement important pour elle et pour les Windsor qui ont un engagement sur l'environnement depuis des années. Elle l'a annulé. Elle a annulé aussi cette fameuse cérémonie du souvenir hier qui, c'est la première fois en 22 ans qu'elle manque cette cérémonie du souvenir. Les seules fois où elle l'a manquée, c'était pour ses grossesses ou parce qu'elle était en voyage à l'étranger.
L'an prochain, elle fête ses 70 ans de règne et on a vu Kate et Camilla sur le balcon. Est-ce que c'est une forme d'amorce de la transition que de les mettre en avant ?
Oui, la transition, même si on y regarde de plus près, elle est amorcée depuis un moment. Il y a une sorte de régence latente du prince Charles. C'est lui désormais qui s'occupe des relations avec le Commonwealth. C'est le reste de la famille royale qui prend en charge tous les déplacements à l'étranger. C'est eux aussi qui remettent les médailles, qui anoblissent les membres éminents britanniques. Donc la reine, effectivement, a finalement donné beaucoup de ses fonctions, beaucoup de ses parrainages également. La seule chose, c'est qu'elle a été extraordinairement présente pendant les confinements, notamment en visio. On l'avait jamais autant vue, en fait. Elle s'est adressée très régulièrement à ses concitoyens à la télévision. C'était beaucoup, beaucoup moins fréquent auparavant. Mais c'est sûr qu'elle est obligée, là, à 95 ans, et vu son état de santé, de laisser de plus en plus de ses prérogatives.
RTL Événements, avec vous Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Merci infiniment. Directrice de la rédaction du magazine Point de vue.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h24, c'est l'heure de notre pépite musicale, tout droit sortie de votre discothèque. Anthony, on vous écoute.
Bonjour Yves, bonjour à tous. On va démarrer comme ça. Vous l'avez dit, Downtown, tube mondial de Petula Clark en 1964. Elle avait 32 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est née le 15 novembre. Happy birthday Petula Clark, chanteuse britannique qui mène une carrière en français et en anglais et qui a eu du succès dans les deux langues. C'est assez rare. À la fin des années 60, elle a sorti un album en anglais, Just Pet, album de reprises dans lequel elle proposait ses versions de Hey Jude, de The Fool on the Hill. Et entre ces reprises des Beatles, plus inattendues, on trouve sa version de ce morceau.
Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps.
Je n'aurai pas le temps, la chanson qui venait de faire connaître Michel Fugain. Ce qu'en fait Petula Clark dans une version anglaise est étonnant. Elle transforme cette balade en morceau soul. C'est notre pépite du jour. Je n'aurai pas le temps devient If I Only Had Time par Petula Clark.
If I only had time, they'd be mine. Time like the wind, who's a hurrying by, and the hours just fly. Where to begin? There are mountains I climb if I die. Since I've met you,
le classique de Michel Fugain par Petula Clark en 69. L'adaptation anglaise existait déjà, mais elle était très fidèle à la couleur musicale de l'original. Mais Petula Clark a bousculé tout ça.
Ah oui. On ne se lasse pas de farfouiller dans votre discothèque avec merci. Toutes ces surprises. Merci beaucoup Anthony. On se dit à demain.
À demain.
Et à tout moment en podcast via l'appli RTL. Rendez-vous avec Louis Baudin dans un tout petit instant pour notre première météo de la semaine.
Bonjour.
Oui, oui, Louis est sur le pont.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi.
Les grosses têtes nous donnent rendez-vous cet après-midi de 15h30 à 18h avec un Johan Rioux, mais alors très en forme.
Les sardines n'arrêtent pas de diminuer de taille. On est passé de 15 cm à 11 cm.
Mais tu as bouffé quoi alors?
Mais... Et donc c'est un truc de dingue comme les sardines.
Oh, c'est un truc de dingue. Ce matin, je m'en remettais pas moi.
Elles seront moins serrées dans les boîtes.
Mais parce que les sardines ne mangent plus. Les sardines n'arrivent plus à manger à cause de la pollution.
Mais qu'est-ce que tu fais le matin, Johan?
Je lis la presse. C'est comme un couillon. Et je comprends pas un truc, Gaëlle. Pourquoi t'as disparu pendant 2-3 ans des grosses têtes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
En fait, j'ai écrit un livre. J'ai suivi pendant 2 ans les Macron. Voilà.
Ah ouais.
Je t'explique.
Les Macron?
C'était bien ou pas?
Il paraît que la taille des Macron a diminué.
Mais il faut que je vous raconte un truc. J'ai failli avoir l'un des plus grands scoops de l'année. Donc j'étais au Havre pour le départ de la voile, la course à la voile extraordinaire, la Jacques Vabre dimanche. Oui. Et donc samedi soir, notre hôtel était à Honfleur. On était à 5 mètres de faire une photo du couple présidentiel tout seul.
Wow.
J'aurais vendu ça à la une de Paris Match. C'était énorme. Donc on peut être président de la République et se balader tout seul à Honfleur un samedi soir tranquillement avec juste 2-3 personnels de sécurité.
Mais c'est génial, c'est passionnant. Et raconte-nous, t'étais au Franprix ce matin.
On les retrouve dès 15h30. Oui, Baudin, on vous retrouve tout de suite. Ça va souffler dans le sud.
Oui, exactement. Ça va souffler près de la Méditerranée où on attend un temps très instable avec des averses, vent de pluie, parfois accompagné d'orages et donc du vent fort sur le littoral de la Côte d'Azur jusqu'à 100-120 km/h pendant quelques heures. Ça va pas durer longtemps. Petit coup de vent donc près de la Méditerranée. Ailleurs, la prévision est très simple à faire. Je vous mets une couche nuageuse et hop, ça va durer toute la journée. Quelques petites brunes en dessous encore plus désagréables. Puis j'ajoute de la neige en montagne. Elle va tomber sur les Alpes et les Pyrénées dès 1500 mètres, les températures plutôt en baisse, 8 à 12 degrés en général, 14 à 17 degrés près de la Méditerranée et jusqu'à 19 même en Corse.
Merci Louis, 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h31, comme le temps passe, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 15 novembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Il a tourné la page de la vie politique, mais pas celle de la justice. François Fillon est de retour au tribunal aujourd'hui avec le procès en appel des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Une affaire à 1 million d'euros, c'est ce qu'aurait perçu Madame Fillon au total en tant qu'assistante parlementaire. Chiffre contesté par l'avocat du couple Antonin Lévy.
Cette somme d'un million qu'on brandit, déjà, elle est fausse, elle est mathématiquement, totalement, grossièrement inexacte. Mais ensuite, le tribunal n'explique pas, à part en balayant en quelques paragraphes, comment on peut avoir des centaines de pages de preuves de travail, plus de 50 attestations de personnes dont aucune n'a été poursuivie pour faux témoignage qui viennent expliquer ce que Mme Pénélope Fillon a fait. Tous ces éléments-là, le tribunal les a balayés. Nous pensons que la Cour d'appel saura les entendre.
Propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot. En première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 10 ans d'inéligibilité. Comme dans un film, une détenue a tenté de s'évader hier de la prison de Fresnes en creusant un trou dans le mur de sa cellule. Il lui a permis de sortir jusqu'au chemin de ronde où elle a finalement été interceptée. Il s'agit d'une jeune femme de 31 ans qui est pourtant censée être particulièrement suivie car radicalisée. Les syndicats réclament un audit et la remise en service de 2 miradors.
Face à une situation exceptionnelle, l'Autriche dégaine une mesure exceptionnelle, reconfiner seulement les non-vaccinés.
Les taux de contamination atteignent de nouveau des sommets. 13 000 nouveaux cas samedi pour à peine 10 millions d'habitants. À partir d'aujourd'hui, c'est donc retour à la maison, mais seulement pour les 2 millions d'Autrichiens qui n'ont pas reçu leurs 2 doses. Le taux de vaccination est de 65% en Autriche et c'est clairement insuffisant pour l'épidémiologiste Didier Pité.
Tant qu'il reste une proportion de population qui peut être infectée par le virus, évidemment qu'on se retrouve dans la même situation. Il y a toujours suffisamment de personnes non vaccinées ou non protégées pour que le virus circule. Alors tout le monde un jour aura des anticorps, mais d'ici là, il faut éviter que les vulnérables ne s'infectent, n'en souffrent et que la société finalement en souffre. Et pour faire société, il faut que chacun soit vacciné ou protégé.
Didier Pité, invité des Petits Matins d'RTL avec Jérôme Florin. Ce reconfinement sélectif, évidemment, fait débat en Autriche et bien au-delà, parce que l'épidémie rebondit dans toute l'Europe. En France aussi, ça repart, Odile Pouget.
Oui, le taux d'incidence augmente dans la quasi-totalité des départements et dans une petite trentaine, il est maintenant nettement supérieur à 100 pour 100 000 habitants. C'est le cas des Landes, du Bas-Rhin, de l'Ariège, des Bouches-du-Rhône ou encore de Paris. Et pour la première fois, depuis la mi-septembre, le nombre de cas positifs recensés chaque jour repasse au-dessus de 10 000. Toutes les classes d'âge sont concernées, mais ce sont les jeunes adultes, les 30-39 ans, qui sont les plus touchés. En revanche, du côté des hospitalisations, les indicateurs affichent toujours une hausse modérée, autant pour les admissions que pour les entrées en réanimation.
Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. Le gouvernement présente aujourd'hui son plan de lutte contre la prostitution des mineurs, plan porté par le secrétaire d'État à l'enfance Adrien Taquet. 7 à 10 000 jeunes sont concernés en France. Le phénomène touche surtout les jeunes filles qui entrent dans la prostitution de plus en plus tôt, souvent entre 14 et 15 ans. Au lendemain de la clôture de la COP26, Boris Johnson s'est félicité hier de l'adoption du pacte de Glasgow pour le climat. Une joie teintée de déception, dit le Premier ministre britannique. L'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 degré n'a pas été acté et les pays pauvres n'ont pas reçu l'aide qu'ils demandaient. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, veut, elle, voir le verre à moitié plein.
D'abord, on a un accord. Ça n'était pas joué. Je rappelle que des COP, c'est un vote à l'unanimité. Tout le monde doit être d'accord. Donc oui, un texte de compromis, ce n'est pas un texte qui est le plus ambitieux du monde. Mais par contre, dans la même pièce, on a des pays qui en ce moment ne se parlent pas et qui là se sont parlé. Donc on en est encore loin d'avoir sauvé la planète. Mais là, on l'a mis plutôt dans le bon chemin.
Barbara Pompili, invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Airbus frappe fort en ouverture du salon de l'aéronautique de Dubaï avec une commande groupée de 225 A321 effectuée par 4 compagnies, un contrat à plus de 28 milliards d'euros. Fini la traversée de Paris à fond les ballons. À partir d'aujourd'hui, la vitesse des trottinettes en libre service est limitée à 10 km/h dans 700 zones. Il s'agit notamment des rues très commerçantes, des parcs ou des abords des écoles.
Le foot international avec une grosse déception pour le Portugal.
Oui, l'équipe de Cristiano Ronaldo devra passer par les barrages pour se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. Elle s'est fait surprendre hier par la Serbie qui l'a emporté 2-1 en éliminatoire. Chez les filles, Lyon prend la tête du championnat grâce à une écrasante victoire sur le PSG 6-1. Des Parisiennes perturbées sans doute par l'agression de Kira Amraoui et le soupçon qui pèse sur sa coéquipière Aminata Diallo. C'est en tout cas ce que pense l'entraîneur du PSG Didier Olé-Nicole.
On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fatigue. On était blessés psychologiquement, moralement. Si la direction du club de Paris Saint-Germain a demandé ce report, hein, c'est que ce n'était pas pour ne pas jouer, parce qu'on sait qu'il fallait jouer ce match à un moment donné. Mais uniquement, c'est que voilà, on sentait qu'il y avait un groupe très, très touché et que par rapport à l'éthique, ce n'était pas bien.
L'entraîneur du PSG avec Bertrand Frachon.
Et nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et en direction la Sicile ce matin, vous allez voir que les crimes de la mafia ne se lavent plus dans le sang, mais dans le vin.
Rendez-vous est pris. À tout à l'heure, dans un instant, suite de notre matinale spéciale sur l'augmentation des salaires, on retrouve l'Angleco avec François Langlais qui analyse la question des salaires dans notre pays.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, l'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous, bonjour à vous Yves.
On va parler pouvoir d'achat bien entendu, puisque c'est le cadre de notre matinale spéciale. Alors y a-t-il, oui ou non, François, des salaires insuffisants en France lorsqu'on les compare à ceux des autres pays?
La comparaison ne nous est pas très favorable. Selon les dernières données publiées par l'INSEE, le salaire brut annuel moyen en France dans le secteur privé, il est de 41 600 euros pour un temps plein, ça fait 3 500 euros brut par mois. Attention, hein, c'est une moyenne qui est évidemment tirée vers le haut par les gros salaires. Lorsqu'on compare cette moyenne à celle des autres pays européens, la France occupe la 11e position. Derrière les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique et surtout le Danemark, qui est à 5 200 euros brut en moyenne, donc bien plus haut que nous. Derrière nous, il y a l'Italie, 3 000 euros par mois. En fait, c'est assez simple. Hein. Tous les pays du Nord sont devant nous, oui. Tous les pays du Sud et de l'Est, derrière. En matière de salaire comme de géographie, ah oui. La France est au milieu de l'Europe.
Bah dites-moi, c'est pas terrible comme position.
Non, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il s'agit quand même d'un salaire direct et qu'en France, compte tenu du poids élevé des cotisations sociales, salariales et patronales, on a un salaire indirect plus important qu'ailleurs.
Alors, expliquons les choses. Un salaire indirect, ça veut dire quoi ?
Avec votre salaire, vous sont attribués, par exemple, des droits à la retraite. C'est pas le cas en Allemagne, où il faut épargner en plus. Bien sûr, vous avez aussi l'assurance maladie, les allocations familiales, l'assurance chômage. En France, la redistribution représente un tiers des revenus finaux. Autrement dit, un tiers des revenus des Français est versé par l'État sous forme de prestations. Bon, bah, c'est du salaire indirect, largement financé par les cotisations prélevées sur les salaires. Les Français récupèrent donc largement ce qu'on leur prélève, et même un peu plus, parce que nos comptes sociaux sont en déficit.
Alors, si je vous suis, ça veut dire que nos revenus dépendent de l'État ?
Ouais, c'est tout à fait vrai. Et j'allais dire, c'est même de plus en plus vrai sous le quinquennat Macron. Les salariés au SMIC, par exemple, touchent maintenant un complément de revenus de la part de l'État, ce qu'on appelle la prime d'activité, fortement augmentée après la crise des Gilets jaunes. C'est en fait l'État qui se substitue à l'employeur pour améliorer le traitement des employés non qualifiés dans les services, le plus souvent. Oui. Autre exemple, pendant la crise du Covid, l'économie s'effondre de 8%, le pouvoir d'achat des Français augmente légèrement. Ce sont bien sûr les dispositifs d'aide. Tout récemment encore, le gouvernement a sorti son indemnité inflation, un chèque de 100 euros pour les ménages modestes destinés à compenser la hausse des prix.
Bon, est-ce que ça pose vraiment problème tout ça ?
Ça pose quand même deux problèmes. Oui. Un, ça déresponsabilise complètement les entreprises de l'évolution des revenus de leurs salariés, alors que c'est quand même pour l'entreprise qu'ils travaillent. Ensuite, quand c'est l'État qui paye, en réalité, c'est l'État qui emprunte. Il creuse la dette pour maintenir nos revenus. Il hypothèque les revenus futurs pour garantir les revenus d'aujourd'hui. Lorsque le gouvernement se prévaut d'avoir augmenté le pouvoir d'achat des Français en moyenne de 8%, il n'a pas tort. Ce qu'il oublie de dire, c'est que tout cela ne correspond en rien à une augmentation réelle du niveau de vie du pays, parce que c'est financé à crédit.
Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site RTL.fr. Et bien justement, Alba Ventura, bienvenue.
Bonjour
7h42,
à tous.
Votre invité ce matin.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF. On va parler bien sûr des salaires à l'occasion de notre matinale spéciale. Et puis on parlera aussi d'écologie.
A tout de suite avec Geoffroy Roux-de-Bézieux sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Bonjour Geoffroy Roux-de-Bézieux. Vous publiez L'intendance suivra De Gaulle et l'économie, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous sur RTL à l'occasion de cette matinale spéciale sur les salaires, la hausse des salaires. Vous vous étiez fâché tout rouge lorsque le Premier ministre et le ministre de l'économie avaient demandé aux entreprises de prendre leur part en matière de salaire au moment de la hausse des prix de l'énergie. Je vous cite, que l'État balaye devant sa porte, je serais curieux de savoir combien Bercy paye ses femmes de ménage. Ça, c'est envoyé. Mais l'État n'a pas à demander aux entreprises de mettre la main à la poche ?
Bon, il y a un problème dans un certain nombre de postes qui sont pas assez payés. Moi, je ne le nie pas. C'est souvent le coût d'aller travailler quand on a des problèmes de logement ou des problèmes de voiture, notamment. Mais je ne crois pas que ça soit le rôle de l'État de décider à la place des entreprises. Chaque entreprise, en début d'année prochaine, va probablement regarder la situation. On a du mal à recruter. Il y a, je pense, beaucoup d'entreprises qui augmenteront les salaires, parce que d'abord, les salaires en 2020 et 2021 ont été quand même peu augmentés, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'on a du mal à recruter. Mais mon point, simplement, c'est un, que c'est pas à l'État de décider, c'est dans chaque entreprise en fonction de la situation. Et puis deux, que l'État est souvent pas exemplaire, et notamment en matière de sous-traitance.
Mais vous avez entendu ce que vient de dire François Langlais, c'est-à-dire que l'État fait sa part en matière d'aide et de prestations, donc les entreprises pourraient faire.
Si j'ai bien écouté François Langlais, il le fait à crédit. Et le crédit ou la dette plutôt, c'est nous qui le payons. D'ailleurs, juste un mot sur la chronique de François Langlais. Il a parlé de la prime d'activité qui a été augmentée. La prime d'activité, ça compense sur les salaires en dessous de 1700 euros, je crois, à peu près. Mais c'est une trappe à augmentation de salaire, si j'ose dire. Parce que à chaque fois que vous augmentez les salaires, que ce soit sous forme d'heures supplémentaires ou d'augmentation, la prime diminue. Et donc, c'est une bonne solution de court terme, parce qu'elle permet de maintenir le pouvoir d'achat, mais c'est une mauvaise solution de long terme.
Mais on voit bien qu'il y a des métiers. Je prends l'exemple de cette maman assistante maternelle qu'on a entendue ce matin sur RTL, qui est obligée de compléter son revenu en faisant de la livraison à domicile le soir tard. Tous ces métiers du soin, mais je pourrais en citer d'autres, les revenus sont quand même faibles.
Oui, oui, et on devrait pouvoir les augmenter. Le problème qu'il y a derrière, c'est qu'il faut augmenter les prix. Les prix publics, je prends la restauration qui a du mal à recruter, si vous augmentez de 10% les salaires, il y aura des augmentations de salaires significatives dans la restauration, je pense, parce qu'il y a une négociation qui est en cours. Ça veut dire que les prix à la carte augmentent de 5%. Mais c'est vrai dans beaucoup de métiers. Le gouvernement nous a beaucoup reproché sur ce qu'on appelait les métiers de la seconde ligne. Donc, effectivement, les femmes de ménage, les agents de sécurité. Mais les appels d'offres qui sont faits par l'État, et il faut le dire aussi, par les grandes entreprises, sont toujours sur le prix. Donc, moi, je plaide pour que, notamment dans les appels d'offres publics, collectivités locales, État, hôpitaux, il y ait une dimension qui ne soit pas seulement celle du prix. Il faut sortir de l'économie low cost, c'est ça la solution. Parce qu'à un moment, les salaires, dans ces métiers de service, c'est l'essentiel du prix de revient, et donc c'est le prix final.
Les syndicats disent que les milliards d'euros d'aides versées aux entreprises pendant la crise du Covid doivent aussi arriver dans le porte-monnaie des salariés.
Mais je pense que ce n'est pas un bon raisonnement. Les milliards d'euros, entre guillemets, ils ont servi surtout à sauver les entreprises, à remplacer du chiffre d'affaires. Et puis n'oubliez pas que, par exemple, ce qui est le PGE, hein, le prêt garanti par l'État, il faut le rembourser. Il faut le rembourser d'ailleurs à partir du 1er mars ou du 1er avril.
Mais on voit bien que c'est le nerf de la guerre, Geoffroy Roux-de-Bézieux, puisque 65% des accords d'entreprise signés en 2020 ont porté sur les salaires, bien sur la participation. 65%.
Oui, mais d'ailleurs, pendant que je le souligne à l'envers, ça veut dire qu'il y a des accords d'emprise, qu'il y a des négociations. Il y a en ce moment 57 branches qui négocient et il y aura beaucoup de négociations en début d'année. Juste petit point, vous avez parlé de participation. La bonne nouvelle, c'est que les résultats 2021 des entreprises vont être très bons. Et donc, mathématiquement,
il devrait y avoir
participation, intéressement, qui ne couvre que 50% des salariés, vont augmenter. Donc, il y aura, du grain à moudre de ce point de vue-là.
Est-ce que vous remonte de la grogne dans les entreprises? Je vous dis ça parce que le Figaro fait état ce matin, dans certaines même grandes entreprises, d'un climat social explosif. C'est ce qui vous remonte?
Non. Mais, non, mais je vois beaucoup d'entreprises, mais je ne les vois pas toutes. Donc, il peut y avoir des cas. Par contre, ce qui me remonte, je crois qu'il ne faut pas se cacher, c'est le fait que les salariés du privé attendent, après 2 ans d'efforts, hein, parce que les salariés ont fait énormément d'efforts pendant le Covid, leur juste récompense, et l'année 2021 a été bonne. Donc il y aura, effectivement, il y aura même aussi beaucoup de primes, vous savez, là, ce qu'on appelait la prime Macron. Je pense qu'il sera versé dans beaucoup d'entreprises.
Alors, certains syndicats, mais pas seulement, je pense au Centre des jeunes dirigeants, s'interrogent sur l'organisation du travail. La crise du Covid est passée par là, elle a permis à certains salariés de travailler autrement. Nouvelle forme de travail, le Centre des jeunes dirigeants propose la semaine de 4 jours. C'est envisageable, ça, selon vous?
Ben, ça existe déjà, il y a une centaine d'entreprises.
Non, mais on peut le généraliser?
Mais ils n'ont pas été au bout dans la chronique qu'elle fait allusion, c'est la semaine de 4 jours, est-ce que ça veut dire 32 heures? Et à ce moment-là, est-ce que c'est 32 heures payées 32, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, ou 32 heures payées 35? Je ne pense pas que la seule solution, je ne vais pas vous surprendre, soit 32 heures payées 35.
On change de sujet, Geoffroy Roux-de-Bézieux, parlons d'écologie. La COP26 vient de s'achever sur un bilan mitigé. Vous, vous êtes devenu alors un véritable VRP de l'écologie. Vous avez signé il y a quelques jours une tribune dans le journal du dimanche, dans laquelle vous dites qu'il faut changer le modèle capitaliste, rien que ça. C'est le patron des patrons qui est devenu un révolutionnaire?
Révolutionnaire, non, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, historiquement, produire, voyager, consommer, c'est émettre du carbone. Donc il faut aller vers un capitalisme décarboné, avec un point qu'on souligne qui est très important, c'est que ce qui compte, c'est l'empreinte carbone et pas les émissions de carbone. Je m'explique, l'empreinte carbone, c'est ce que vous consommez, y compris ce que vous importez. Et malheureusement, on se focalise beaucoup sur l'émission carbone. Ce qu'il ne faut pas, c'est que l'industrie européenne disparaisse parce qu'elle n'émet plus. Dans l'absolu, si on supprime toutes les usines en Europe, on n'émet plus de carbone. Pour autant, on va continuer à imprimer du carbone.
Mais vous êtes en train de dire quoi? Que les produits étrangers, il ne faut pas les faire venir?
Je suis en train de dire que si l'Europe, ce qui ressort manifestement de la COP26, est en avance, l'Europe et la France, en avance sur le plan de la décarbonation, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des fuites de carbone. C'est-à-dire qu'en gros, on remplace des produits fabriqués en Europe peu carboné par des produits importés plus carbonés. C'est pour ça qu'on soutient, nous, la taxe carbone aux frontières. Pas souvent que le MEDEF soutient une taxe.
Ouais, mais pardon, mais verdir, c'est facile pour quand on est une grande entreprise, mais quand on est une petite PME?
C'est facile pour personne. Verdir, produire vert, c'est produire plus cher. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps. Alors après, il y a beaucoup d'investissements à faire et effectivement, la profitabilité actuelle des entreprises leur permet ou pas d'investir. Et donc ça sera plus difficile, pas tellement en question de taille, c'est une question de profit en fait, et de rentabilité.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, fabriquer en France, c'est une solution pour limiter le réchauffement climatique. Il y avait le salon du Made in France ce week-end, avec son défilé de candidats à la présidentielle. Ça vous fait sourire, la ronde des politiques à ce salon?
Je trouve ça plutôt
sympathique. Vous dites qu'il y a une vraie prise de conscience, finalement.
Non, je trouve ça plutôt sympathique. Le fait que la réindustrialisation de l'Europe et de la France devienne presque une grande cause nationale de Mélenchon à Marine Le Pen, moi, je trouve ça plutôt bien. Après, qu'est-ce qu'on met derrière et comment on fait pour que l'industrie française soit compétitive? C'est un autre débat.
On prendra le temps une prochaine fois. La réforme des retraites par points, telle que présentée par Emmanuel Macron, que vous avez soutenue, ça, c'est définitivement enterré.
Je n'ai pas soutenu la réforme par points. Nous, on n'a jamais été grand fan de ce système universel qui est en fait très complexe à mettre en œuvre. Nous, on pense simplement qu'il faut travailler plus longtemps. On avait soutenu donc une réforme à 64 ans. Elle est repoussée, mais manifestement pas pour toujours, puisqu'on en parle pour septembre 2022 en fonction du candidat qui sera élu.
En tout cas, Emmanuel Macron a évoqué, entre les lignes, 2022. Pour la première fois, le président a parlé du recul de l'âge, sans préciser. Là, vous le soutenez?
Oui, c'est pas une nouvelle agréable pour les Français de travailler plus longtemps, bien sûr. Mais c'est indispensable dans un pays où la démographie recule et où on a moins de jeunes pour plus de retraités.
Merci beaucoup Geoffroy Roux-de-Bézieux. Donc je rappelle votre livre, L'intendant suivra De Gaulle et l'économie, c'est chez Robert Laffont. Merci.
Et l'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Vous restez avec nous, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
Aïe.
Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Oh oui, parfois ça peut être agréable.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h54. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bien entendu, notre invité, Geoffroy Roux-de-Bézieux, reste avec nous.
À la bonne heure. Bonjour camarades, il est grand temps de mettre fin à l'exploitation du prolétariat par ses patrons esclavagistes. Bah, qu'est-ce que je raconte ? Oh putain, c'est ma chronique de la semaine dernière face à Mélenchon. Autant pour moi. Non, non, rien. Excusez-moi.
Bah oui, c'est Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron des patrons, qui est là ce matin.
Ah oui, je vois. C'est con parce que j'ai mis ma vieille montre en plastique pour faire peuple. Je croyais que j'étais devant quelqu'un de la France insoumise, alors que j'ai une Daytona tout or à la maison. Si j'avais su qu'on était entre gars blindés. Non, c'est une vanne, je vais me refaire cambrioler, moi, avec ces conneries. C'est une pâté que Philippe que j'ai. Alors, Geoffroy Roux-de-Bézieux, je suis ravi. Déjà, le nom est classe. Avec un nom pareil, vous pouviez être que président du MEDEF. Je pense que certains prénoms prédestinent à une carrière. Ah oui. Je ne sais pas si on peut réussir en s'appelant Yves. Il y a des Yves célèbres. Il y a Yves Robert, Yves Montand, Yves Mourouzi, Yves Saint-Laurent. Attention, c'est un prénom de personne décédée, hein, quand même. Et Louis, bon, Louis... Il y a Louis la Brocante et Émile Louis. Bon, ça tourne souvent autour de la camionnette. Bref, avec un blaze comme Geoffroy Roux-de-Bézieux, bah, t'es en haut de l'organigramme de l'entreprise. Ça sonne pas livreur des Deliveroo. Hein, votre Pokawa avocat saumon vous sera livré par Geoffroy Roux-de-Bézieux. On n'y croit pas.
Non, on n'y croit pas, non.
Non, en tout cas, ici, à Hertele, on aime. On est comme Manuel Valls. On aime l'entreprise. On est la France qui se lève tôt. La France qui bosse. On n'a pas pris un jour de congé depuis le 4 août. Enfin, Louis, Yves et moi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Bon. C'est bonne mine, hein, François et Alba. C'était bien ce long week-end.
Écoutez, parlons de l'actu politique. Hier soir avait lieu le deuxième débat des Républicains. Vous avez regardé tout ça, Philippe ?
Ah non, j'ai regardé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier sur TF1. Bien sûr que j'ai regardé, enfin Yves, je suis professionnel. L'émission finissait à minuit, c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît les gens de droite ce matin. Ils ont des petits yeux. Et Geoffroy Roux-de-Bézieux, on est à son cinquième café.
C'est Michel Barnier qui a gagné le tirage au sort et qui a ainsi lancé le débat.
Oui, il aura au moins gagné un truc dans cette élection, Michel Barnier. Tu parles d'un lancement d'émission, c'est tombé sur l'anesthésiste pour faire décoller la fusée. Alors, qui se détache entre Ciotti, Pécresse, Barnier, Juvin, Bertrand? Bah, ils ont tous tellement de talent, n'est-ce pas Thérèse?
On ne sait que choisir.
Ah ben bah, oui, on ne sait que choisir. Alors moi j'ai bien observé les cinq, j'ai eu très envie de voter Apolline de Malherbe.
Ah ben bah, ça je vous comprends. Alors samedi, la COP26 a fermé ses portes à Glasgow. L'accord conclu est qualifié de décevant, le président de la COP a pleuré pendant son discours de clôture.
C'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Le médecin en soins palliatifs que tu vois arriver dans le couloir et à qui tu demandes « Comment va mamie ?» Et le gars, il se met à chialer. Bon, ça sent pas bon. Ça sent l'héritage. Quoique l'héritage peut être une bonne nouvelle. Alors, le seul point sur lequel ils se sont mis d'accord facilement, c'est au bout de 15 jours à Glasgow. « Tiens, si on rentrait chez nous ?» Là, ils étaient d'accord. Mais il y avait une bonne ambiance. Oui. « Hé, Polo, Jean-Louis, Christian, à la revoyure !» Eh, le bout de Pedro, on se revoit à la COP27 pour les deux semaines de vacances. Eh, les gars, faites un gros béco aux Maldives, on n'est pas sûr de les revoir. Hein. Jean-Louis, t'as réglé ton midi-bar, bah, qu'est-ce qui s'enfile, le Jean-Louis? Les icebergs, ils sont dans son Ricard, Jean-Louis. Non, les gars sont efficaces. La planète est entre de bonnes mains, on le sent.
Absente d'une nouvelle cérémonie officielle, la santé d'Elisabeth II inquiète.
Oh, qui de la planète ou de mes mères d'Angleterre mourira en premier? Bon, ça va jouer au sprint, à la photo finish, hein, car mes mères d'Angleterre a un coup de mou. Tellement patraque, la pauvre, je suis même pas sûr qu'elle soit en état d'assister à son enterrement. Les deux seules fois, ça c'est vrai, les deux seules fois où elle a raté cette cérémonie des vétérans, c'est parce qu'elle était enceinte. Bon là, elle a fait pipi sur le test de grossesse Claire Blue. Si je vous confirme que c'est négatif, Buckingham serait déjà en train d'acheter un cercueil en forme de champignon pour faire rentrer mes mères avec son chapeau. Alors le prince Charles va commencer à travailler à 73 ans. Ça va pas perdre Geoffroy, ça. Un mec qui commence à bosser une belle feignasse, oui. Alors, je vous souhaite la même longévité sur le trône du MEDEF que mamie Stabilo. Jusqu'à 95 ans.
Non.
God save the MEDEF.
Philippe Cavrivière tous les matins, 7h55 sur RTL. À demain matin.
À demain.
Merci d'être resté avec nous, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Bonne journée à vous. Notre météo avec vous, Louis Bonnet, on vous écoute.
Oui, et puis une belle couche nuageuse hein, sur la France aujourd'hui. Ça va durer toute la journée, peu ou pas d'éclaircies, quelle que soit la région. J'ajoute beaucoup d'instabilité près de la Méditerranée, avec là des averses parfois accompagnées d'orages, de la neige. Elle tombera sur les Alpes, sur les Pyrénées-Orientales, dès 1500 mètres. Et puis le vent qui sera également de la partie hein, pendant quelques heures. On pourrait dépasser les 100 km/h sur les côtes varoises, du coup, avec une mer très agitée. Les températures, alors pas de gelée ce matin en pleine sous ces nuages, mais cet après-midi, 8 à 12 degrés en général, ça redégringole par rapport à hier, 14 à 17 degrés près de la Méditerranée, jusqu'à 19 en Corse.
Merci beaucoup Louis Bodin, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et à la une, le tour de vis autrichien.
Pas de vaccin, plus de sortie. Les non-vaccinés contraints de rester confinés chez eux. Nous joindrons dans un instant notre envoyé spécial sur place et puis nous tenterons de comprendre si une telle mesure est envisageable chez nous. Ils travaillent, mais pas suffisamment pour se payer un endroit où vivre. Portrait dans ce journal d'un peintre en bâtiment forcé d'habiter dans son camping-car, faute d'argent.
Comment augmenter les salaires ? RTL pose la question ce matin et nous ouvrons le débat à 8h20. Face à face, une représentante de la CGT face au responsable de l'Union des DRH.
Commander de la drogue ou acheter des armes en quelques clics dans ce journal. Enquête sur le dark web, la face cachée du net. Et puis, certains sont prêts à tout pour se faire une place au royaume de la bière. À Toulouse, une brasserie vient de sortir une blonde parfumée à la bouillabaisse. Nous avons testé.
Dès la fin du journal, Cyprien Sini.
Le surf de l'info quand le foot nous donne des cours de géographie.
Et puis la face cachée de la une, Isabelle Choquet, de quoi parlerons-nous ?
On va parler de crimes mafieux et de bons vins. Il y a un lien, vous allez voir.
Sera 8h35.
RTL Matin.
C'est une mesure inédite en Europe et parmi l'une des plus sévères au monde. À partir d'aujourd'hui, en Autriche, les personnes non vaccinées devront rester confinées chez elles. Décision annoncée hier face à la hausse spectaculaire des contaminations et qui entre donc en vigueur ce matin. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à Vienne. Comment les Autrichiens accueillent-ils cette mesure ?
Oui, eh bien écoutez, je me trouve dans la gare principale de Vienne et selon le personnel, il y a moins de monde que d'habitude car un tiers des Autrichiens ne peut plus sortir ce matin. Les contrôles du pass sanitaire dans les rues vont commencer avec l'aide de 30 000 policiers. Alors certains sont allés prendre l'air un peu plus tôt ce matin pour les éviter, comme Olga et son mari non vaccinés.
Tout est plus compliqué. C'est impossible de vivre normalement. Alors mon mari a décidé de se faire vacciner. Il en a besoin s'il veut travailler ou sortir. Ça devrait rester un choix. Là, c'est créer des tensions entre les gens car c'est de la discrimination et ce n'est pas très bien.
Le plus gros journal du pays parle ici ce matin de l'une des plus dures phases de l'histoire de l'Autriche, mais la mesure semble plutôt acceptée dans les rues. Jonas a donc ses deux doses. Pour lui, c'est une forme d'obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, mais qui devenait inéluctable.
Un tiers de la population n'a même pas une dose. Maintenant, tout le monde est sous la même règle. Il faut jouer le jeu. En plus, les chiffres sont très mauvais. La plupart des cas sont des non-vaccinés. Donc ce sera un bon moyen d'obliger la vaccination.
Le gouvernement se laisse désormais 10 jours pour évaluer l'efficacité de cette mesure inédite.
Merci Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL à Vienne. Aurélie Herbemont du service politique nous a rejoint dans ce studio parce qu'on se pose la question, Aurélie, une mesure aussi tranchée, confiner les non-vaccinés, est-elle envisageable chez nous en France ?
Eh bien l'exécutif nous assure que non, d'abord parce que la situation est moins alarmante en France qu'en Autriche, notamment grâce à une couverture vaccinale plus élevé ici. Ensuite, confiner uniquement les non-vaccinés serait compliqué juridiquement et opérationnellement, nous dit l'Élysée. Comment tu contrôles ? S'interroge un proche du président. Mmh. Rappelons qu'en France, il y a déjà des restrictions pour les non-vaccinés via le pass sanitaire pour accéder à certains lieux. C'est plus facile de contrôler des entrées que des sorties de chez soi. La cinquième vague sera celle des non-vaccinés et des personnes fragiles qui n'auront pas eu de rappel, prévient l'exécutif, qui veut continuer à pousser les feux des injections. D'où l'allocution d'Emmanuel Macron mardi soir. Hier, deux candidats LR, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ont expliqué qu'ils seraient d'accord avec le scénario autrichien en cas de besoin. C'est assez rare que LR parle de santé. Mmh. On comprend mieux pourquoi, torpille un macroniste, comment il ferait pour confiner 6 millions de personnes.
Merci Aurélie Herbemont. Rappelons que si la France est plutôt bon élève comparée à ses voisins de l'Est, notamment Allemagne, Autriche, Pologne, le taux d'incidence chez nous augmente hein, également fortement, plus 38% en une semaine. A l'inverse, le Cambodge, lui, décide de rouvrir ses frontières et les fameux temples d'Angkor aux voyageurs vaccinés, le royaume qui ne peut pas se passer du tourisme qui lui rapporte 5 milliards de dollars par an.
RTL 8h04, le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. RTL ouvre le débat ce matin avec cette question, comment peut-on augmenter les salaires?
Alors qu'un Français sur deux dans le privé gagne moins de 2000 euros par mois, certains sont payés beaucoup moins, contraints parfois à des choix radicaux. C'est le cas de Francis, ce peintre en bâtiment, habite à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Vous l'avez rencontré, Patrick Hisson, dans son camping-car qui lui sert aujourd'hui de maison.
Oui, voilà 4 ans et demi que Francis vit dans son très vieux camping-car immobilisé sur le parking d'une zone commerciale.
Financièrement, j'arrivais plus à m'en sortir. Je pouvais plus le loyer, l'électricité, le gaz, malgré le travail. Ouais. C'est pas logique, mais bon, on s'y habitue après au camping-car.
Cet homme de 47 ans s'habitue beaucoup moins à l'augmentation des prix, comme celui des bouteilles de gaz qui lui permettent de se chauffer.
Il y a un mois, je payais 32,90. Là, j'ai pris une bouteille la semaine dernière, 36,90. En un mois, ça a augmenté de 4 euros. Après, on parle pas de l'essence, ça n'arrête pas non plus.
Ce peintre en bâtiment gagne environ 1000 euros par mois grâce à ses missions d'intérim. Il espère toucher la prime de 100 euros pour lutter contre l'inflation.
Ça ferait du bien, quoi. Ça me permettrait de m'en acheter deux directement, même. Deux bouteilles de gaz, ouais. Parce que là, je tourne que sur une bouteille. Bon, financièrement, bon, bah, on fait un peu ceinture, mais bon, ça va, quoi.
Quant à l'avenir, Francis n'est pas très optimiste.
Ça va devenir de plus en plus dur. Des salaires qui ne bougent pas, pas possible qu'on s'en sorte, quoi. Enfin, des gens comme nous, enfin, même ceux qui ont des petits appartements qui touchent un petit salaire, parce qu'on voit du genre un T2 là, à 450, 480, moi, je trouve que c'est énorme, quoi.
Autant dire impossible pour cet homme fier d'avoir toujours travaillé en évitant, dit-il, de profiter du système social.
Un reportage signé Patrick Hisson. François Fillon et son épouse Pénélope de retour au tribunal. Le couple est jugé cette fois en appel pour l'affaire des emplois fictifs. Lourdement condamné en première instance. 5 ans de prison dont 2 ans fermes pour lui. 3 ans avec sursis pour elle.
8h05, ce plan de lutte à présent contre la prostitution des mineurs présenté aujourd'hui par le secrétaire d'État chargé de l'enfance Adrien Taquet.
On estime aujourd'hui en France entre 7 et 10 000 le nombre de jeunes contraints, forcés de se prostituer. Souvent des jeunes filles de 14 à 17 ans. La plupart du temps sous la coupe d'un proxénète. C'est l'histoire de Zara, cette adolescente fugueuse tombée dans l'engrenage de la prostitution. Le calvaire de Zara et le combat de Samia, sa maman. C'est un récit ce matin d'Étienne Bonu.
Zara est placée en foyer en décembre 2019 à l'âge de 13 ans pour des soupçons de maltraitance. Mais très vite, elle fugue la nuit plusieurs fois par semaine. Elle est tombée sur Nathan, un jeune âgé seulement de 17 ans. Ce sont des cadeaux et la promesse d'une belle vie. La relation devient rapidement toxique. En septembre 2020, la directrice du foyer avertit sa maman Samia.
Un jour, elle disparaît, plus d'une semaine, et là, on me dit voilà, qu'il y a des soupçons de proxénétisme. Et là, malgré mes appels, malgré le signalement au juge, rien n'a été fait.
Samia se précipite alors évidemment au commissariat de police.
La police de Marseille me disait qu'il y avait un manque d'effectifs et que cette semaine-là, voilà, ils ne pouvaient pas travailler sur le dossier de ma fille.
Samia se rend alors sur les réseaux sociaux et sans grande difficulté retrouve la trace de Zara sur un site d'escort girl. Elle la localise dans un appartement à Grenoble, puis à Besançon. Samia prend alors contact elle-même directement avec la police de la ville, grâce aux éléments qu'elle a recueillis, les policiers récupèrent sa fille. Ils la placent pour la nuit dans un foyer. C'est la procédure.
L'heure qui suit, hein, même pas, elle refugue du foyer de Besançon. De là, elle retourne vers ses proxénètes. Faisant prise de son proxénète, elle dit qu'elle l'aime, quoi, que c'est l'homme de sa vie, qu'elle ne peut pas porter plainte contre ce gars.
Le jeune proxénète est tout de même interpellé, mais faute de preuves, il est relâché 4 mois plus tard. Et retrouve Zara, l'entraîne à nouveau dans cette spirale infernale. Samia, toujours seule et démunie, la repère en octobre dernier, cette fois-ci à Toulon. Au cours d'une soirée, le petit ami proxénète tabasse la jeune fille et la laisse pour morte. Le déclic, peut-être. Zara s'enfuit, retourne sur Marseille, retrouve sa mère, porte finalement plainte. Aujourd'hui, Samia demande des sanctions plus sévères pour les proxénètes, des investigations systématiques des policiers, des juges plus attentifs, des éducateurs mieux formés. Zara, de son côté, reste très fragile. Elle est suivie par une association qui l'accompagne pour tenter de se reconstruire.
Un récit signé ce matin, Étienne Bodu.
Dans un instant, la face cachée d'Internet, le Dark Web. Un vaste supermarché où rien n'est interdit, drogue, armes à feu, faux papiers. Suffit d'un clic pour être livré. Notre reporter a mené l'enquête. Restez avec nous.
RTL Matin.
RTL, il est 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Le mois dernier, l'agence européenne de police Europol opérait un vaste coup de filet dans le milieu du dark web.
Oui, cette partie cachée d'Internet où se croisent dealers, faussaires et revendeurs d'armes à feu. Une sorte de bon coin, mais version illégale. Pourtant, pas besoin d'être bac plus 10 en informatique pour y avoir accès. C'est ce que vous allez comprendre avec l'enquête ce matin de la brigade RTL. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Vous avez pu surfer sur ce dark web sans grande difficulté.
Oui, c'est un catalogue infini où rien, absolument rien n'est interdit.
On a toute notre sélection ici, donc à gauche on peut acheter de l'herbe, on peut acheter du hash. On a d'autres sites qui vont vendre de la fringue, des armes, comme on peut vendre de tout. C'est comme un Google, si tu veux.
On y trouve LSD, héroïne, que l'on paye en crypto-monnaie. Pour arriver sur ces sites, il faut passer par un portail d'accès. Le plus célèbre en France, elle s'appelle Tor, hein, ça marche comme Google. Et puis ensuite, il faut y entrer les adresses exactes des sites marchands que les consommateurs, comme Mathias, trouvent sur des forums ou via le bouche à oreille.
Comme sur un site marchand banal, on a 3676 mecs qui ont fait un avis positif sur ce vendeur et 4 qui ont fait un avis négatif. Ok, je l'ajoute à mon panier.
Incroyablement simple, effectivement, et tout ça livré par la poste. Alors, les cyber-enquêteurs de la police judiciaire chassent les dealers en ligne, mais aussi les trafiquants de papiers d'identité, comme vous l'a expliqué Gérald, c'est l'un de ces cyber-policiers.
Oui, c'est une grande spécialité française, usurpation ou identité factice pour monter des crédits à la consommation en pagaille.
Tout à fait, on a une victime dans le sud de la France qui a malheureusement pour elle envoyé tous ses documents à une fausse annonce. Et une fois qu'elle a eu transmis ses documents d'identité, ses feuilles de paye, en fait, c'est aperçu un peu plus tard que des vrais crédits à son nom avaient été contactés, qu'il y a même une voiture en leasing en fait qui avait été achetée à son nom, et des ouvertures frauduleuses de lignes téléphoniques aussi également à son nom. Ça va très vite en fait.
Trop vite parfois pour la France. 3 magistrats et 5 policiers spécialisés seulement travaillent dans cette jungle d'Internet. Un parquet national dédié à la cybercriminalité pourrait voir le jour dans les mois qui viennent.
Jungle, c'est le mot. Enquête sur le dark web, cette face sombre d'Internet, signée ce matin Hugo Hamelin.
Vaut mieux pas y toucher, hein, quand le nucléaire fait des heureux.
Alors qu'EDF s'apprête à construire de nouveaux réacteurs EPR après le feu vert du chef de l'État lors de son allocution mardi dernier, plusieurs sites sont d'ores et déjà envisagés. Parmi eux, Gravelines, dans le Nord, où le maire socialiste Bertrand Ringot se frotte déjà les mains.
Nous savons que nous sommes dans la shortlist. En tout cas, nous avons voulu envoyer un message positif. Pour l'EPR, sur Gravelines, nous sommes prêts. Ça apporte, je dirais, de l'emploi. C'est 14 000 emplois dans les Hauts-de-France, bien rémunérés, qu'on peut faire carrière. Ça apporte aussi un dynamisme fiscal à la communauté urbaine, disons-le, important, qui permet de réinvestir dans d'autres domaines, d'améliorer notre cadre de vie, d'améliorer notre littoral, d'améliorer notre patrimoine. Je dirais que c'est assez logique d'installer ces installations ici sur Gravelines.
Le maire de Gravelines, qui on l'aura compris, veut son EPR au micro d'Antoine Decarne. Airbus frappe fort en ouverture du salon aéronautique de Dubaï. Le constructeur européen a décroché une commande groupée de 255 avions, modèle A321. Première commande d'ampleur depuis le début de la pandémie.
Alors écoutez bien, il existe en France plus de 2000 brasseries artisanales. Et ce n'est pas toujours évident de se faire une place au pays du houblon.
Alors certains sont prêts à pousser très loin l'originalité. Vous allez l'entendre. À Toulouse, la brasserie Sabotage s'est faite une spécialité de repousser les limites en matière de saveur. Accrochez-vous bien, petite séance découverte avec notre correspondant Benjamin Pelsi.
Commençons par une dégustation à l'aveugle.
C'est bizarre, je sais pas ce que c'est. C'est hyper iodé. Ça sent l'huître. Hein.
Ah, c'est un goût qui me parle. J'ai plein de fruits de mer dans la bouche.
C'est une bière à la bouillabaisse.
Ah mais... Oh de ouf, ouais. À mort.
C'est réussi, ouais.
Allez, à mon tour, mais accompagné de Florent, l'un des brasseurs à l'origine de cette bière. Une collaboration entre la brasserie Sabotage de Toulouse et Zuma à Marseille.
Elle n'est pas rouge, contrairement à la bouillabaisse.
Au nez directement, on ne sent pas vraiment de différence avec une autre bière.
Non, le côté bouillabaisse, il viendra vraiment en deuxième bouche.
C'est salé déjà.
T'as le côté marin un peu. Ce qui est rigolo, c'est de sentir ce poisson et malgré tout d'avoir une bière.
Une bière à la bouillabaisse quand même, on se demande pourquoi.
Parce qu'on peut. Nous, on a fait à la base une bière avec du confit de canard aussi. Pour une bière de Noël, c'était canard et confit d'oignon.
Comment vous avez réussi à faire entrer une bouillabaisse dans une bière?
On fait une belle bouillabaisse et puis après le reste, c'est de la technique. Et il va falloir utiliser des petites techniques secrètes pour pouvoir extraire les goûts sans mettre du gras dans ta bière parce que ça marche pas.
Prochain défi pour ces virtuoses du houblon, une bière ambrée au cèpe et promis, je serai là pour la goûter.
Allez, le rendez-vous est pris, Benjamin Pelsi. Le football est la déception du Portugal hier soir qui devra passer par les barrages pour se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. L'équipe de Cristiano Ronaldo s'est fait surprendre par la Serbie qui l'a battu 2-1 en éliminatoire. L'Espagne s'est en revanche qualifiée, ce fut dur mais c'est fait en battant la Suède 1-0.
Et cher Dominique Tenzer, on vous retrouve à 9h pour le point de l'actualité si vous voulez bien. À tout à l'heure. Dans un instant, on surfe avec vous Cyprien Sini.
On va parler foot aussi, mais géographie.
Ah, tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Il est bientôt 8h18. Cyprien, vous surfez ce matin avec le football et la géographie.
Ah ça a été l'un des grands débats du week-end. Samedi soir, M6.
Le coup d'envoi de ce France-Kazakhstan.
France-Kazakhstan et comme 6 millions de téléspectateurs, très belle audience d'ailleurs, vous avez peut-être entendu ça.
de la part des Kazakhstanais. C'est dégagé par la défense kazakhstanaise. Le milieu de terrain kazakhstanais qui a pu déclencher.
Oui, les Kazakhstanais, la défense kazakhstanaise. Eh bien ça en a surpris certains. Pourtant, pour les habitants du Kazakhstan, il faut bien dire kazakhstanais et pas, comme on l'entend trop souvent,
aux champions kazakhs.
L'équipe kazakh, la formation kazakh.
Non, non et non, pas kazakh. Et en plein match, l'excellent Xavier Domergue a même fait un petit cours de géographie en direct.
Bien. On appelle les habitants du Kazakhstan les Kazakhstanais parce que ça concerne l'ensemble du peuple du Kazakhstan. Et les Kazakhs, ça n'est pas le cas. C'est donc pour ça qu'on doit parler et évoquer les Kazakhstanais, mon cher Robert Pires.
Merci pour la précision. Et voilà. C'est important.
Voilà, non, c'est important.
Tout le monde se cultive en écoutant.
C'est grâce au football.
Mais oui, bien sûr.
Le Kazakh, c'est une ethnie qui compose le peuple kazakhstanais. Après, il dit que c'est important, Robert Pires. Mais quand même, lui, il préfère assurer en disant...
Mais attention quand même à cette équipe du Kazakhstan.
Ouais, on voit comme ça, gros, pas
de
risque.
On a senti un mouvement de recul.
Plat du pied, sécurité, hein. Mine de rien. On apprend toujours grâce au foot, tenez.
L'équipe de France est en déplacement donc en Bosnie-Herzégovine pour y défier les Bosniens.
Eh oui, les Bosniens, mesdames, les messieurs, surtout ne pas dire...
Bosniaque.
Non. Les Bosniaques sont des habitants de Bosnie de confession musulmane. Pour parler de tous les habitants de Bosnie, on dit...
Et les Bosniens, du côté des Bosniens pour la défense bosnienne.
Tout bon ça. Et puis il y a aussi...
On découvre la Biélorussie que les Bleus avaient affrontée.
Les France-Biélorussie ou alors...
Le Bélarus.
Alors là, pour faire simple, vous dites un peu comme vous voulez, les deux sont admis. Et puis, on découvre carrément des pays aussi grâce au foot. En septembre dernier, Ligue des Champions...
Le Real Madrid accueille Sheriff... Tiraspol, les deux clubs ont gagné leur premier match.
Tiraspol, et là au commentaire, on qualifie Tiraspol de...
Les Moldaves, eux, le Real est en train de perdre 2-1 face aux Moldaves.
Tiraspol en Moldavie, hein, même si c'est plus compliqué que ça en fait.
La ville de Tiraspol est située en Moldavie. Un point historique, cette ville et sa région se revendiquent comme entité sécessionniste de la Moldavie, baptisée Transnistrie, protégée par des soldats russes, mais non reconnue sur le plan international.
Et hop, qui connaissait la Transnistrie, hein ? Alors on dit merci le foot, même si parfois, niveau géographie, ça peut aussi bafouiller, hein, comme pour le match France-Albanie ou...
Les hymnes nationaux, on commence par l'Albanie.
Sauf que là...
Qu'il y a un problème de taille, c'est qu'en fait l'hymne qui a été joué n'est pas l'hymne albanais.
Effectivement, c'est un problème important.
Ah bah ouais, alors le temps de recaler le bon hymne, c'est France-Albanie le match. Hein. Oui. Albanie, et donc le speaker.
Chers supporters, encore toutes deux excuses pour les supporters de l'Arménie. Voici donc l'hymne de l'Arménie, s'il vous plaît.
Ouais,
s'il vous plaît.
C'est vrai qu'il y a encore un peu de boulot pour que le foot remplace la géographie au collège, mais bon, on peut toujours y croire. Et
donc on peut tenter de saluer tous nos auditeurs kazakhstanois.
Kazakhstanais.
Mais non, mais je le fais exprès. Ah oui. Tout est possible maintenant. Bah oui. J'arrive à vous piéger. Allez, notre débat.
RTL Matin, le choix d'Yves Calvi.
Il est 8h21. Vous savez que nous vous proposons ce matin une matinale spéciale consacrée et ayant pour thème comment augmenter les salaires. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Vous êtes co-secrétaire générale de la CGT en charge des cadres et des professions intermédiaires. Bienvenue à Benoît Serre.
Bonjour.
Vice-président de l'Association nationale des DRH. Sophie Binet, pour la CGT en cette fin d'année 2021, faut-il selon vous augmenter les salaires? Et si oui, dans quelle proportion?
Oui, il faut les augmenter parce que le problème, c'est que tout augmente sauf les salaires. Les prix augmentent, à commencer par ceux de l'énergie. L'activité repart et on voit les dividendes, les salaires des PDG qui retrouvent leur niveau d'avant-crise, voire même qui renouent avec les records, hein, puisque le niveau du CAC 40 atteint les records de la bulle financière des années 2000. Et par contre, ce qui ne bouge pas, c'est les salaires. Donc il y a une grande colère salariale. C'est indispensable d'augmenter les salaires pour reconnaître les qualifications dans le pays.
Une hausse généralisée ?
Une hausse générale des salaires est importante pour reconnaître les qualifications dans le pays, oui. Alors qu'aujourd'hui, dans les entreprises, c'est au mieux des augmentations individuelles qui se mettent en place avec des critères considérés comme de plus en plus injustes et aléatoires.
De quel ordre, quel montant, et je serais tenté de vous dire, est applicable dès maintenant ?
Déjà, la première des choses, c'est que il n'y a pas d'augmentation. Au mieux, on a des augmentations au niveau de l'inflation. Oui. Dans plein d'endroits, on n'a pas d'augmentation au niveau de l'inflation. Et ensuite, il faut que les augmentations, elles prennent en compte la reprise de l'activité économique, les gains de productivité majeurs qui ont été générés depuis la crise sanitaire. On en parle peu, mais avec le télétravail, il y a des gains de productivité très importants. Et puis, la dernière chose, c'est qu'une des leçons de la crise, c'est aussi le besoin du travail qualifiés en France. Pourquoi est-ce qu'on a été autant en difficulté? Parce qu'on n'est pas capable de produire un vaccin, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des soignants, on n'est pas capable d'avoir une recherche. Pourquoi? Parce que les niveaux de salaire, le paiement des qualifications n'est pas assez élevé en France.
Alors, Benoît Serre, Sophie Binet a été parfaitement claire dans en tout cas la photographie qu'elle fait de la situation et des demandes selon elle nécessaires. Est-ce qu'on peut y répondre?
Je pense qu'on ne peut pas y répondre partout de la même manière. C'est ça la difficulté qu'on a. C'est-à-dire que sur le fond, si on prend le raisonnement que vous avez fait, hein, inflation, le sentiment, besoin de reconnaissance à l'issue de crise Covid, ça paraît logique d'augmenter les salaires. Sauf qu'il y a une réalité et que toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation. Je crois, et Sophie Binet l'a dit, que l'un des sujets quand même qui arrive maintenant, c'est la question de ce qu'on appelle le partage de la valeur. C'est vrai que il y a beaucoup
Le partage de la valeur, c'est le partage de la richesse
Exactement, créée.
D'accord.
Et que ça, c'est un vrai sujet. Alors, il y a plein de manières de la partager. C'est pas que par le salaire, ça peut être par l'intéressement, ça peut être par la participation, ça peut être par l'actionnariat salarié. Vous avez peut-être vu notamment que l'entreprise Decathlon, qui est la première entreprise, elle est sous un modèle d'actionnariat salarié. Donc, je crois que c'est surtout ça le sujet. Il faut revoir le partage de la valeur. Est-ce qu'on peut faire de l'augmentation des salaires généralisée partout au niveau de l'inflation telle qu'on la constate aujourd'hui? Très honnêtement, si on pouvait, ce serait bien, mais je crains qu'on ne le puisse pas. Parce que toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation. Donc il faut trouver d'autres manières alternatives au salaire pour augmenter le pouvoir d'achat des gens.
On a des salariés qui ont fait des efforts, qui viennent de traverser une crise, qui sont restés au boulot. On a cessé de mettre en avant leur capacité à y aller, si je puis dire, notamment pendant cette crise. Il paraît en tout cas logique et normal qu'il y ait en fait une juste récompense.
Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi il y a tous ces débats sur l'augmentation des salaires? D'abord parce qu'il y a effectivement l'inflation ou le sentiment d'inflation selon la position qu'on prend. Mais il y a l'autre chose, c'est ce que
pourquoi parlez-vous de sentiment d'inflation?
Les économistes vous disent, on n'est pas aujourd'hui en situation d'inflation.
Oui, c'est ce qu'ils disent.
Pour les
Français qui nous écoutent et qui vont à la pompe
exactement.
Et qui font leurs courses, je crois qu'il est honnête de dire que...
Exactement. Voilà. Mais on est en système d'inflation, d'augmentation des prix, notamment de l'énergie en particulier. La deuxième chose qui a été évoquée, ce que vous avez dit, et c'est vrai, c'est qu'à l'issue de cette crise, enfin du moins, ça a l'air d'aller un peu mieux, les gens ont besoin de reconnaissance, individuelle comme collective. Ils disent, voilà, ça fait un an et demi qu'on tient. Maintenant, on a été présent, soit par télétravail, soit on était présent sur le terrain. Vous avez des gens qui n'ont jamais vécu cette crise, hein, parce qu'ils ont été au boulot tous les jours. Et dans ce cas-là, on attend de la reconnaissance. Le cumul des deux fait que vous avez une pression sur les salaires. Il y a une réalité, c'est que toutes les entreprises ne sortent pas en grande forme de cette crise.
Sophie Binet, une réaction à ce que vient de nous dire Benoît Serre.
Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'on fait comme si le SMIC mensuel, c'était pour tout le monde. Mais les premières de corvée, c'est souvent bien moins que le SMIC mensuel qu'elles gagnent. Par exemple, une aide à domicile, elle gagne 900 euros en moyenne par mois. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de salariés parmi les premiers et premières de corvée qui n'ont même pas assez à la fin du mois pour se financer, pouvoir vivre. Donc ça, c'est la première urgence. Augmenter les salaires parce qu'il y a un certain nombre de salariés qui ne peuvent pas vivre. Et puis la deuxième chose, c'est augmenter les salaires pour payer les qualifications, pour reconnaître le travail exercé. Et là, c'est de salaires dont il faut parler. Pourquoi est-ce que les PDG augmenteraient leur salaire de façon astronomique? Et là, c'est en moyenne 40% 2021 par rapport à 2020. Et nous n'aurions pas droit d'augmentation de salaire.
Alors, le président du MEDEF, au micro d'Alba Ventura sur RTL tout à l'heure, faisait remarquer qu'il pensait nécessaire, lui aujourd'hui, une augmentation de salaire. Que selon lui, elle allait venir en tout début d'année parce qu'il y aurait des négociations qui allaient dans ce sens. Mais il dit, mais attention, les augmentations de salaire, ça se traduit aussi automatiquement par des hausses de prix.
Non, là, le problème, c'est qu'on voit l'inverse, en fait. C'est les hausses de prix sans même qu'on ait d'augmentation de salaire. Il n'y a pas de lien automatique entre augmentation de salaire et hausse de prix. Et là, on voit même l'inverse, hausse de prix sans augmentation de salaire. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que les entreprises ont bénéficié d'aides publiques massives, quand même, depuis le début de cette crise. Et nous, ce qu'on constate, c'est que ces aides publiques sont pour partie captées par le coût du capital, par les dividendes qui sont versés aux actionnaires, par l'augmentation des salaires des PDG, et par des taux de marge qui sont d'un niveau très élevé et qui ne vont pas nourrir l'investissement ou les salaires.
Il y a eu des abus, selon vous, Benoît Serre ?
Je ne crois pas que ce soit généralisé, parce que les aides qui ont eu lieu, elles permettent aujourd'hui d'avoir un appel d'emploi considérable. C'est-à-dire une reprise avec, on le sait, vous savez qu'il y a un problème entre le nombre d'emplois offerts et le nombre de candidats
possibles. Oui, un appel d'emploi qui n'est pas fourni.
Exactement, parce qu'il y a un problème de compétences. parce qu'il y a un problème d'adaptation. Ça, c'est sûr qu'on a une vraie difficulté. C'est conjoncturel, mais c'est pas que conjoncturel. Quand vous regardez, c'est aussi structurel. On n'a pas forcément un environnement de l'enseignement qui est adapté aux emplois que cherchent les entreprises aujourd'hui. Ça, c'est un vrai problème structurel qu'on a dans ce pays. Mais ça, c'est un autre problème.
Oui.
Mais en attendant, il demeure que, je ne sais pas si ça a été capté. Ce que je sais, c'est que les aides qui ont été mises en place ont permis de maintenir une activité ou du moins un certain nombre d'emplois et que finalement, ce qu'on nous annonçait il y a un an et demi, à savoir un chômage massif à la sortie plus ou moins de cette crise, ne se réalise pas.
C'est
et ça,
vrai.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant, sur la question de la rémunération, il faut l'augmenter. Geoffroy Roux-de-Bézieux l'a dit et on le voit. Dans certains secteurs, si on ne l'augmente pas, ils ne trouveront pas de candidats. Le marché va réguler les choses d'une certaine manière. Le marché va les forcer à augmenter les salaires. Une augmentation générale, ce serait dangereux. En revanche, réinterroger la manière dont on redistribue l'argent que les entreprises gagnent, parce que vous l'avez évoqué sur l'augmentation des PDG en particulier, je ne connais pas le détail. Ça veut dire que le sujet, ce n'est pas l'augmentation des PDG, c'est la non-augmentation des autres.
Oui, on est bien d'accord.
Voilà.
Une toute dernière question, Sophie Binet, avant de nous séparer. Est-ce que ça commence effectivement à grogner dans les entreprises? On évoquait un climat ressemblant à un mouvement qui pourrait être celui des Gilets jaunes, pas forcément contrôlé par les syndicats, de grogne spontanée sur une demande d'augmentation de salaire.
Oui, il y a une vraie colère avec des mobilisations salariales qui sont en augmentation. Et puis, il y a le problème sur les inégalités femmes-hommes qui reculent. Pour la première fois, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes augmentent du fait de cette austérité salariale à laquelle il faut mettre fin.
C'est juste et nous y avons largement consacré des chroniques sur l'antenne d'RTL. Merci à tous
Merci
les
à
deux.
Vous.
Sophie Midec, secrétaire générale de la CGT en charge des cadres et des professions intermédiaires et Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Il est 9h30, à tout de suite avec Louis Bodin pour notre météo à 7 jours.
RTL Matin.
Ces quelques notes de piano nous indiquent notre météo à 7 jours avec Louis Bodin, donc une sorte de sérénité nous atteint. Enfin, sérénité, c'est pas vraiment la situation de notre météo. On vous écoute.
Exactement, notamment près de la Méditerranée, on attend beaucoup d'instabilité aujourd'hui. Je vois beaucoup de pluie d'ailleurs, sur tout ce littoral méditerranéen, accompagné de vents forts, notamment sur la Côte d'Azur. On pourrait dépasser les 100 km/h, tout ça avec une mer agitée. Donc attention à cette instabilité. Dans notre région, c'est gris. Demain, c'est la même chose, c'est gris sur toute la France. Ça, on verra pas le soleil de la journée. Alors, il y aura un petit peu moins de pluie par rapport à aujourd'hui. Et puis, surtout près de la Méditerranée, là, quand même, ça va s'améliorer. On va retrouver un temps plus sec, plus ensoleillé, avec un peu de mistral et de tramontane. Côté température, comme on aura cette couverture nuageuse, pas de gelée en pleine, mais l'après-midi, toujours des températures un petit peu justes, entre 8 et 13 degrés au nord comme au sud. Il y a que près de la Méditerranée où on dépassera encore les 15 degrés. Donc, ça pour demain. Mercredi, c'est la même chose. Donc, ça veut dire quand même, si vous comptez bien, depuis vendredi, là, en région parisienne, mais dans la plupart des régions, on n'a pas vu le soleil. Donc, ça fera 6 jours consécutifs sans soleil. Après, quand même, jeudi, on devrait connaître enfin le retour de la lumière. Ça va se rééclairer avec de belles éclaircies, quand même, des passages nuageux, évidemment. Plus de soleil dans le quart sud-est avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Même chose pour la journée de vendredi. On devrait quand même avoir quelques éclaircies. Même chose pour samedi. Je dis ça prudemment parce que plus on s'éloigne, plus la prévision n'est pas très fiable. Et puis pour dimanche, là, on pourrait avoir un courant nord, donc de nouveau un refroidissement assez net. Et d'ailleurs, il devrait neiger à basse altitude dimanche après-midi ou dans la nuit de dimanche à lundi, sur tous les massifs, sur les Alpes, sur le Massif central ou encore du côté des Pyrénées. Et ce froid pourrait bien s'installer la semaine prochaine.
Alors, je résume. Lundi, mardi, c'est gris. Mercredi, un peu mieux. Jeudi, un peu de lumière revient. Vendredi, idem. Un bon gros coup de froid dimanche.
C'est ça. Bien résumé.
Bah écoutez,
merci.
Non, je vous en prie, je vous écoute. Et puis surtout, tout ça va être évidemment au fur et à mesure analysé avec encore
et
plus...
Et affiné.
D'affiné. Ah bon, alors. Si on affine, ça devient presque trop. On part en Grèce. Partons à Athènes où forcément ce qui se passe à la frontière entre l'Europe et la Biélorussie rappelle ce qu'a vécu la Grèce en mars 2020 quand la Turquie menaçait de, je cite, inonder l'Europe des migrants. Bonjour Alexia Kefalas.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Grèce. La Grèce qui est aussi une porte d'entrée de l'Union européenne et le débat sur l'accueil des exilés a d'ailleurs été relancé à Athènes ces derniers jours avec un échange public pour le moins tendu et même très tendu entre le Premier ministre et une journaliste hollandaise.
Oui, la scène se passe au palais Maximou, l'Élysée grecque, en pleine conférence de presse du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et de son homologue hollandais Mark Rutte, qui est en visite à Athènes. Inderborg Bugel, c'est son nom, correspondante d'un journal hollandais en Grèce depuis 20 ans, pose sa question, la voici.
Monsieur Mitsotakis, quand allez-vous enfin cesser de mentir? Mentir sur les refoulements et sur la condition des réfugiés en Grèce.
Et voici la réponse du Premier ministre grec Mitsotakis.
Ce que je n'accepte pas, c'est que vous m'insultiez, moi et le peuple grec, dans ce bureau, avec des accusations et expressions qui n'ont aucune preuve, alors que ce pays doit faire face à une crise migratoire inédite ces dernières années.
Depuis, les débats fusent dans toute la presse.
Alors certes, mais on se souvient qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait qualifié la Grèce de bouclier de l'Europe. Donc aujourd'hui, quelle est la ligne d'Athènes au juste? Protéger les frontières à tout prix?
Oui, c'est tout le débat. En fait, les ONG accusent, témoignages à l'appui, la Grèce de refoulement, c'est-à-dire de repousser les embarcations de réfugiés arrivant de Turquie. Athènes dément, vous l'avez entendu. Alors, sur les conditions, les exilés vivaient dans des camps surpeuplés, insalubres, entourés de rats. On en a beaucoup parlé, hein. Alors, le gouvernement grec a fait construire des centres pour demandeurs d'asile, et notamment sur l'île de Samos, un centre ultra moderne face aux côtes turques, avec des fonds européens, 43 millions d'euros. Alors j'ai pu m'y rendre, barbelé à perte de vue, chien de garde, drone, lunettes à réalité augmentée et caméras de surveillance dont les images sont, et c'est nouveau, directement reliées à Athènes. Donc c'est très très futuriste, hein, et certains l'appellent déjà le Guantanamo de l'Europe. Pourtant, à l'intérieur, les réfugiés comme Alice, qui est arrivée à Samos il y a un mois, ne se plaignent pas forcément. Elle est originaire de Sierra Leone et elle tente surtout de panser des plaies ouvertes laissées par un parcours périlleux en partant donc de Sierra Leone et traversant l'Iran et la Turquie, non sans séquelles. On écoute Alice.
J'étais épuisée. On marchait dans les bois et les montagnes. Il n'y avait rien à manger. Il ne me donnait à manger que s'il me violait. Je veux rester en Grèce parce que je me sens en sécurité ici.
Merci beaucoup Alexia Kefalas. RTL en Grèce, la face cachée de la une dans un instant. Avec vous Isabelle Choquet, de quoi allons-nous parler?
De bons vins et de mafieux.
Oh, à tout de suite.
RTL Matin, la face cachée de la une.
8h39 ce matin, Isabelle Choquet, vous nous emmenez en Sicile goûter le vin de la mafia.
Oui, car depuis une vingtaine d'années, la lutte contre Cosa Nostra passe par la saisie des vignes des mafieux et leur reconversion. J'ai lu ça sur le site du Monde. Direction San Giuseppe Jato, petit bourg de 10 000 habitants à peine, à une heure de Palerme, niché entre les collines et la Méditerranée. On y trouve plusieurs établissements d'agritourisme, des fermes, des vignes, des exploitations pas tout à fait comme les autres. Elles ont longtemps appartenu aux Brusca. Giovanni Brusca, c'était le bras droit de l'impitoyable parrain Toto Riina. Il a plus d'une centaine de meurtres à son actif, mais moins de 200, il a cru bon de préciser devant le juge. Brusca a traumatisé toute la région. On le surnommait Uveru, le porc, en sicilien, ou encore Uscana Cristiani, le tueur de personnes. Il est impliqué dans un attentat contre un juge anti-mafia et surtout, il a enlevé et tué un gamin de 12 ans seulement. C'était en 96, il a dissous le corps dans une cuve d'acide nitrique. Cette année-là, il a été arrêté et condamné à la perpétuité. Depuis, le village de San Giuseppe Jato et ses vignobles sont libres, les terres cultivables ont été saisies par l'État et elles sont réhabilitées par plusieurs associations, notamment Libera Terra, c'est la version agricole de Libera qui est sans doute la plus célèbre des organisations anti-mafia. Le groupe a créé le vignoble Santo Passi en hommage à un jeune communiste qui s'opposait à Cosa Nostra. Sa maison n'était qu'à 100 pas de celle d'un chef mafieux, Santo Passi. Il a été tué en 78, attaché à des voies de chemin de fer. Aujourd'hui, ce vignoble est l'un des plus réputés de l'île. C'est une renaissance inespérée. Car à la création de Santo Passi en 2005, la mafia sicilienne est encore puissante. Les familles de criminels règnent toujours sur les villages alentours. Du coup, c'est difficile pour le vignoble de recruter des travailleurs. Et puis, des incendies éclatent régulièrement sur l'exploitation. Est-ce qu'on a reçu des menaces de mort? Oui, c'est possible, dit l'un des créateurs du vin. Dans toute la région, ce vignoble devient le symbole de la lutte contre la mafia. Les employés qui osent candidater acceptent des salaires inférieurs à la moyenne pour rejoindre l'aventure. Et grâce aux premiers clients engagés, eh bien les ventes finissent par décoller. On en est aujourd'hui à 1,5 million de bouteilles vendues dans près de 20 pays. C'est comme un nouveau coup asséné à Cosa Nostra et peut-être l'un des plus efficaces, surtout en Sicile, là où la mafia a construit son pouvoir sur la terre. Selon un expert du crime organisé, pendant les interrogatoires, les chefs mafieux s'inquiètent toujours de l'avenir de leur propriété. Ils disent souvent « Mettez-moi en prison si vous voulez, ça ne me dérange pas, mais ne touchez surtout pas à mes vignes, ça les affecte beaucoup. » Économiquement bien sûr, mais aussi symboliquement. Aujourd'hui, le vignoble de San Giuseppe Jato s'est installé dans la la légalité et les soutiens de la mafia au sein de la population ont disparu peu à peu. Santopassi s'est taillé une place parmi les vins de qualité. Certaines cuvées sont proposées dans les meilleurs restaurants de Rome ou de Milan. Et il a remporté plusieurs prix, dont celui du Gambero Rosso, la référence, oui, le Goemilio italien. Le guide précise, le vin peut être un moyen de rédemption pour une terre longtemps exploitée par la mafia. Le nez et la robe sans l'arrière-goût du crime. Pour en savoir plus sur ces vins revenus de loin, rendez-vous sur lemonde.fr.
C'était passionnant. Merci beaucoup et à demain.
Merci.
Derrière chaque artisan, il y a un projet. Création, transmission, reconversion, votre CMA vous accompagne. Les chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour à vos côtés.
Plus d'informations sur artisanat.fr.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous pensiez peut-être que les chiens d'aveugle étaient réservés aux adultes. Eh bien, détrompez-vous, vous êtes comme ça. Vous emmène ce matin dans la seule, je dis bien la seule école en France, et en Europe d'ailleurs, qui éduque des chiens guides d'aveugles pour enfants et pour adolescents malvoyants. Ça se passe à la Fondation Frédéric Gaillane, à Lille-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Nerissa Emani, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Chaque année, des chiens guides sont offerts à une dizaine de jeunes et vous avez suivi leur formation.
Oui, et tout commence dans les jardins de la Fondation. Enzo, 17 ans, est aveugle et il tient fermement la laisse et le harnais de Hooper, un bouvier noir et blanc. Objectif, se déplacer avec son premier chien guide.
Bravo Hooper, super.
Tout a été imaginé ici pour recréer une ville et ses obstacles. Passage piéton, entrée de métro. Enzo avance timidement sur les conseils d'un éducateur.
Reprends l'aise, là ça va, c'est facile et tout. Quand tu vas avoir 36 000 personnes qui te frôlent, qui te passent à côté, le bus, le tramway, machin et tout, et machin. Attention, prends bien tes repères. Qu'est-ce que tu dois avoir d'aligné et de parallèle? Ton bord de trottoir, tes épaules, ta poignée.
Quatre jeunes ont été sélectionnés pour être formés pendant 3 semaines et repartir avec leur chien. Ils viennent de toute la France et même d'Italie. Kylian, 17 ans et malvoyant, il a toujours rêvé d'un chien guide. Et c'est chose faite avec Olfi.
C'est mon coup de cœur. Elle va être H24 avec moi. Elle est très, très câline. Elle est très joueuse, mais aussi très sérieuse quand elle travaille.
Ouais, moi on parle de toi.
Ça change de la canne. C'est beaucoup plus fluide les déplacements. C'est moins de stress aussi pour nous. La canne, au lieu d'éviter les obstacles, on va tout taper. Alors qu'avec le chien, elle va les esquiver. C'est beaucoup plus rapide.
C'est Céline qui gère la formation et pour cette éducatrice, il est bien plus facile d'apprendre à des jeunes.
Les adolescents, ils sont peut-être plus malléables et puis surtout, c'est leur premier chien. C'est comme un peu un premier amour. Nous, on arrive avec ce côté un petit peu tout neuf et cette énorme volonté, cette énorme envie de devenir le plus autonome possible. Et puis, ils ont tout leur cœur de disponible pour ces chiens, donc c'est assez formidable.
Et pourtant, avant la création de cette fondation, il y a 12 ans, aucune école ne formait de chiens guides pour mineurs. Chantal Roubaud dirige le pôle enfant.
Au début, je pense qu'il y avait quelques interrogations, même des écoles de chiens guides adultes, en disant l'adolescent, il est en pleine construction, il ne va peut-être pas forcément être capable de s'occuper de ce chien, en plus de tous les changements de son corps, de la crise d'adolescence qu'on appelle. Wow. Et on se rend compte que le chien guide, au-delà du déplacement, favorise la confiance en soi de l'adolescent, donne une place à part entière à l'adolescent dans le schéma familial où les parents sont beaucoup plus confiants de ce déplacement avec ce chien guide, un mieux-être global, une meilleure posture. C'est un adolescent qu'on retrouve après son chien guide, la tête haute, bien dans sa scolarité et c'est un épanouissement complet de cet adolescent.
Et c'est grâce à des dons uniquement que 100 chiens guides d'aveugles estimés à 10 000 euros chacun ont été offerts à des jeunes depuis la naissance de la Fondation Gaillane.
Merci Nerissa pour cette immersion dans cette école unique en Europe. Ça se passe dans la charmante cité de Lille-sur-la-Sorgue et ce reportage est à retrouver sur l'application RTL. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe. Bonne journée.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h48. Bonjour Laurent Gérard.
Mais on est en retard, bonjour Yves.
Oui, on va rattraper tout ça. Et bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. La vice-présidente américaine Kamala Harris vient d'achever une visite officielle de 5 jours dans notre pays. On fait le bilan avec notre consultant habituel, John Rombo. Alors John, cette visite de Kamala Harris vous a semblé utile? je vous fais rire, c'est bon.
Commence pas à me faire marrer, petite grenouille. On vient de me recoudre les oreilles, ça me tire. Et toi, tu veux savoir si cette visite de blablabla Harris a été utile à l'Amérique? Bien sûr qu'elle nous a été utile. Pendant que blablabla Harris fait des photos à Paris et achète 3 sacs à main, nous, on vend 12 sous-marins nucléaires à l'Australie dans votre dos. Tu comprends mieux pourquoi vous nous faites marrer.
Ouais, on vous amuse peut-être, mais le président Macron a été très fâché après l'affaire des sous-marins australiens. Oui.
Ça y est, tu m'as fait sauter pour 3 points de suture. Yves Calvi, t'as pas du fil de pêche que je m'en couse. Laisse-moi t'expliquer, petite escargotte.
Oui.
Votre président Macron, il nous a tellement grondé que pour compenser les 31 milliards d'euros qu'on vous a chourés, Joe Biden a offert une bonne poignée de main à votre président au G7 de Rome. Hein, estimez-vous heureux qu'il n'ait pas lâché une caisse comme il l'a fait à la COP26. Il a pété.
Bon, vous ironisez, vous avez l'air de prendre la France de très haut, mais je pensais pourtant que nous étions des alliés historiques.
Ça le prend pas mal. On vous adore au Patagone, vous êtes notre petite Amérique à nous, avec tous nos héros en version comique. Votre Anne Hidalgo, c'est Hillary Clinton, mais à trottinette. Mais votre Zemmour, c'est Trump au format cravate. Mon préféré, le plus rigolo, c'est Michel Barnier.
Oui.
On dirait le frère aîné de Joe Biden.
Joe Biden, c'est pas possible.
Il est aussi éveillé que Sleepy Joe. Il parle comme le chat Sylvestre.
Vous voulez dire comme un gros minet?
Oui. Mais oui, j'ai bien dit un gros minet.
Le professeur Raoult est à nouveau accusé de complotisme. Le célèbre épidémiologiste a expliqué chez nos confrères de BFM TV que l'OMS et la politique vaccinale mondiale étaient financées par Bill Gates. Didier Raoult, sosie officiel de Patrick Sébastien, est avec nous ce matin pour s'expliquer.
Salut, pas cher.
Oui, bonjour, professeur. Que répondez-vous à ces accusations de complotisme?
Tout ça, c'est des carabistouilles de journalistes à la solde des pharmaciens.
Mais attention, vous recommencez, là.
Mais pas du tout, fan de chichour, là. Tout ce que je dis s'appuie sur des études sérieuses que j'ai menées à Marseille, dans mon laboratoire installé au Café des Sports, avec mes collègues chercheurs, Dédé la Sardine et Momo le Rigolo.
C'est bon, un bon laboratoire,
alors,
ça.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Avec Dédé et Momo, on a fait une découverte incroyable. Dans le mot Microsoft, il y a O, R, M et S. OMS, c'est pas la preuve, ça.
Non, mais vous n'êtes pas sérieux, là.
Oh, pêcheur, bien sûr que je suis sérieux. Autre découverte. Si tu comptes bien, il y a 9 lettres dans Bill Gates.
Ok.
Et si tu inverses le 9, voilà, ça donne un 6.
Ouais.
Il y a combien de lettres dans le vaccin? 6.
Oui.
Dans vaccin, il y a 6.
Oui, et?
Et dans Pfizer, encore 6. 6, 6, 6, 6. C'est le chiffre du diable.
Oh là là.
C'est scientifique, putain.
Non, mais c'est n'importe quoi. En plus, vous discréditez le vaccin qui est pourtant la seule chose un peu près efficace contre la pandémie.
Et oh, pitchounette. Dans mon labo secret du bar des sports de la Canebière, avec Dédé et Momo, on a trouvé un truc encore mieux pour soigner le Covid.
Ah, je sais, la chloroquine.
Non, le pastaga. Au bout de 10, même si t'es malade, tu sens plus rien. Le pastaga, c'est que de l'amour.
Vous le savez, un livre révèle la relation qui unissait François Mitterrand, alors âgé de 71 ans, à la jeune Claire, 19 ans. Une aventure intime qui a produit une correspondance fournie. Voici une nouvelle lettre du président à sa jeune amie. Nous sommes en novembre 1988. Il y a 33 ans.
Ma Claire, mon clair de lune, ma clarinette, j'espère que tu profites bien de ce pont pour réviser ton droit. Je joins à ce courrier ta prochaine dissertation, rédigée par Robert Badinter. Il ne peut rien me refuser. Ne te fais pas de mourant. Tu vas réussir tes premiers partiels. C'est ce que m'a confié mon astrologue, Elisabeth Tessier, qui lit dans mes boules. Elle est confiante, tu auras tes UV. Et si ce n'est pas le cas, on s'arrangera, j'ai l'habitude. Hier, j'ai présidé la cérémonie du 11 novembre avec le gros chancelier Mahmoud Kohl. Il est gentil, mais il est collant. Toujours à me tripoter, celui-là. Tu te rends compte? Il m'a même tenu par la main. À croire qu'il me prend pour sa fiancée. Consolider le couple franco-allemand, très bien. Mais de là à me proposer la botte, c'est tout pour un Allemand. Et puis, sentir les gros doigts de sa main moite, aussi boudinés que les saucisses dont il s'empiffre, ne fut pas une sinécure, je te prie de me croire. Fort heureusement, devant la tombe du soldat inconnu, j'ai songé à toi, ma clarinette. Tu as ravivé ma flamme. J'ai aussi pensé à nos moments plus intimes lorsque j'ai honoré le dernier poilu.
Non.
Plus tard, dans le secret que j'affectionne tant, je suis allé fleurir l'ultime demeure du maréchal Pétain, qui fut, ne l'oublions pas, un grand soldat,
comme me l'a rappelé mon ami René Bousquet l'autre jour. Tandis que nous prenions un verre tous les deux. Rassure-toi, j'ai suivi l'ordonnance du bon docteur Gubler. Pas d'alcool. De toute façon, René ne boit que de l'eau de Vichy depuis 1940. Tout à l'heure, je suis allé ramasser des feuilles avec ma fille cachée pour son herbier. Il faut que je te la présente. Vous allez très bien vous entendre. Elle est taquine, ma Mazarine. Pendant notre promenade, elle a envoyé des marrons d'Inde sur la tête de son babysitter, Michel Charras. Les hommes du commandant Proutot sont sortis des buissons. Ils ont cru à un attentat, les imbéciles. Nous avons ri comme des bossus. Sinon, mon premier ministre Michel Rocard m'ennuie de plus en plus avec ses réformes. Elles sont comme lui, sinistres. Et ce n'est pas les deux, Pierre Joxe et Bérégovoy, qui amènent du fun, comme tu dis, à ce gouvernement si peu chébrant. Du coup, j'ai fait inscrire à l'ordre du jour de chaque conseil des ministres l'écoute de la cassette du groupe Tenue de soirée que tu m'as envoyé. J'ai aussi demandé à Jack Lang de leur apprendre la chorégraphie de cette chanson qui caracole en tête du top 50 et que tu aimes tant. Nuit de folie. Voir Jean Poprenne en costume bleu ciel s'agiter aux côtés de Paul Quilès en costume rose, c'est hilarant. Sur ces vers, c'est sur ces vers, mon petit clou,
oui,
que je te laisse. Et tu chantes. Chante ce refrain qui te plaît. Et tu tapes. Tapes. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveillons-moi, ma clarinette. Un vent de folie.
Mon Dieu,
comme
mon
vous
Dieu.
Dites.
Merci. Je ne sais même plus quoi dire maintenant. C'est extraordinaire.
Oui, on a remonté le temps.
Bah bon, mais c'est très agréable. Donc nous vous retrouvons, Monsieur le Président, sur le site rtl.fr, bien entendu. Et dans un instant, ah, ça devrait vous plaire, une recette de saucisse au chou.
Ah, c'est bien pour Helmut Kohl.
Voilà. Cette saison.
Mais justement, c'est celle que l'on propose notamment dans le merveilleux canton de Vaud, en Suisse.
Ah.
Et tout cela nous sera proposé par Cyril Lignac.
Oh là là, on a hâte. Ça réchauffe le matin.
Mais oui, absolument, et c'est bien agréable. Merci, on se retrouve demain matin.
Ben, à demain. Grand
à demain.
TL Matin. Yves Calvi.
Alors là, aujourd'hui, on m'épatait. Bonjour Cyril.
Bonjour. Alors, on va débattre aujourd'hui.
Ouh là là, alors, Catherine habite à Bordeaux. Déjà, on me dit, tiens, bon. Et elle aimerait faire de la saucisse au chou. Je ne sais ni quelle saucisse, ni quel chou utiliser, nous dit-elle.
Alors, c'est génial parce que, juste avant, on parlait de ça, puisque vous, vous connaissez
ça. Mais moi, j'ai des ascendants suisses, donc mes grands-parents me faisaient manger ça.
La saucisse au chou. Alors, moi, je ne connaissais pas.
Spécialité
de... Et du veau. Canton,
oui,
de Vaud.
Du canton de Vaud.
Bah, pas le Vaud. Hein,
voilà, mais... Lausanne, tout ça. Les cantons de Vaud, c'est ravissant.
Et alors, c'est une charcuterie crue, fumée à maturation interrompue. Et en fait, c'est à base de porc ou de quoine cuite. Et on le fait avec le chou, en fait. Oui. Et donc, c'est un peu comme une potée chez nous.
Exactement.
Mais attention, mais c'est pas exactement la même chose.
Voilà, mais c'est une belle saucisse avec du chou, en fait.
Exact.
Très parfumée.
Alors, en fait, nous, en France, on a un peu la saucisse de Morteau,
oui,
qui est un peu la même
dans
chose.
Dans l'esprit.
J'adore ça. Elle a ce goût un peu fumé. Donc on la cuit dans un bouillon, assaisonné avec du thym, du laurier. On cuit 45 minutes. On cuit de la palette fumée, où on demande au boucher si elle est déjà cuite. On la remet un petit peu à l'intérieur. On met du lard fumé, de la poitrine. Et on ajoute des légumes, dont ce chou, en fait, que l'on a coupé. Alors moi, j'ai ajouté un peu des carottes, un peu pour faire un peu à la française. Et donc, on mélange tout ça. C'est un vrai beau plat d'hiver. On rajoute du bouillon et il faut que ce soit très chaud, bien odorant, et on le mange comme ça. Alors nous en France avec la saucisse de Morteau, mais en Suisse avec cette saucisse typiquement suisse.
Ah oui, ça n'est qu'une saucisse et le chou est intégré à l'intérieur.
C'est génial.
Ah oui, c'est délicieux.
Et ça, c'est un vrai plat d'hiver.
Oui, alors petite moutarde légèrement sucrée en Suisse, vous savez, c'est très très bon.
Voilà. Ah là là. Bah là, je passe mon tour parce que vous jouez à domicile, Eva.
Ouais, un petit peu, hein. En tout cas, faut cuire 45 minutes, hein.
Exactement.
Faut quand même le préciser parce
faut
que.
Faut le cuire.
Il faut que ça, faut que ça ploplote.
Doucement.
Voilà, parce que faut pas qu'on pète le.
Le boyau.
Bah voilà. Bon, bah, écoutez très bien. Je sens que je vais vous en. J'ai essayé. Écoutez, si j'ai la chance de partir à la montagne à la fin de l'année, je vous ramènerai une saucisse au chou que vous pourrez manger en famille.
Allez, génial. Merci.
Merci Cyril Lignac. Votre recette est à retrouver sur RTL.fr et on vous dit à demain. Et à 9h02, les titres de l'actualité avec Dominique Tenza.
Le retour d'abord au tribunal de François et Pénélope Fillon, jugé cette fois en appel pour l'affaire d'emploi fictif. En première instance, le couple avait été sévèrement condamné. 5 ans de prison, dont 2 ans fermes pour lui. 3 ans avec sursis pour elle. Le tour de vis autrichien face au Covid. À partir d'aujourd'hui, les non-vaccinés ne peuvent plus sortir de chez eux, sauf pour aller faire les courses et se rendre chez le médecin. Confinement strict et contrôle aléatoire après un taux de contamination qui grimpe en flèche dans le pays. L'Irak annonce un premier vol de rapatriement jeudi pour que les migrants bloqués en Biélorussie puissent rentrer dans leur pays. Les réfugiés coincés depuis plusieurs jours à la frontière avec la Pologne et à qui le gouvernement biélorusse avait fait miroiter un passage en Europe. Et puis du football et la déception du Portugal hier soir qui devra passer par les barrages pour se qualifier pour le mondial l'an prochain au Qatar. L'équipe de Cristiano Ronaldo s'est fait surprendre par la Serbie 2-1 en éliminatoire. L'Espagne s'est en revanche qualifiée en battant la Suède 1-0.